Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Et les vraies voix sont en mode fête de la musique ce soir, puisque nous sommes le 21 juin, et comme nous avons la chance d'avoir avec nous notre ami Frédéric Brindel, qui a un très bel organe, et qui a travaillé avec Pascal Sevran, les vraies voix vont être présentées en chanson aujourd'hui.
Les gens l'appellent Philippe Bilger et toute la France nous l'envie, à juste titre, parce que des vraies voix, c'est lui le plus érudit.
Si ça pouvait.
Est-ce que ça va? C'est vrai que là on est dans la flagornerie, c'est-à-dire que vous êtes érudit, là c'est carrément...
Vous auriez pu parler de l'idole des vieux, pas l'idole des jeunes.
Mais ça vous va comme présentation?
Elle est parfaite. Et quel cœur remarquable. Et une très belle chanson, mine de rien.
On a pris une autre très belle chanson, c'est parti.
Elle vient chaque semaine dans les vraies voix débattre de tout, sans langue de bois.
Oui, c'est moi.
Et on est si heureux de sa présence.
Merci, messieurs.
Si bien qu'à chaque fois, les vraies voix chantent.
Vous chantez avec nous, bien sûr.
On va crier, crier
Caroline,
pour qu'elle revienne.
Ça vous va, Caroline?
Génial,
Pilastre.
Bravo.
Ah, super. Bravo.
Encore une belle chanson, hein, Christophe. Hein.
Et puis c'est j'adore. Parti.
Dans le micro, c'est mieux.
Je pas au départ, et après, c'est remarquable, quel bel organe.
Alors, la troisième, alors vous avez eu deux grandes stars de la chanson française, et une troisième très grande star de la chanson française.
Écoute, le psy est près de toi. Il s'appelle Jean Dorido. C'est une vraie voix.
Ah, c'est le monsieur de la dernière fois. Je me souviens, monsieur Bilger. Un profil psychologique très particulier. Beaucoup plus sérieux que Caroline Pilastre.
Les vraies voix, c'est chaque soir en live sur Sud Radio. Des profils déjantés qui débattent de l'actualité. Les vraies voix, c'est chaque soir en live sur Sud Radio. Et celui qui les soigne, c'est Jean Dorido.
Ça vous va, cette spéciale fête de la musique?
Vous êtes au top. Et je connaissais ta très belle voix, Philippe, mais je n'avais jamais entendu Frédéric.
Ah, mais je vous avais dit qu'il avait un bel organe. Hein.
Mais il y pourrait se reconvertir.
Ah, mais il est chanteur.
En fait, ça voudrait dire que je reviendrai à mes premières amours. Mais...
On revient toujours pas. À ses premières amours.
On y revient.
On aurait quel dommage qu'on n'ait pas pu faire quelque chose sur toi.
Ah, bah non, mais moi je suis modeste.
On aurait
je chante
parlé
pas sur...
du pornographe, du phonographe.
Oui, le polisson de la chanson. Le menu, donc ça vous allait. Cette présentation. Bravo à Fred Brindel. On a répété vite fait. Merci.
Une très belle plume.
Oui, comment?
En plus, une très belle plume. En plus
pour les paroles.
Oui.
C'est moi qui les ai écrites.
C'est vous,
n'est-ce pas? Et on a retouché selon les rythmiques qu'on mettait. Mais alors, on a fait un bon travail, n'est-ce pas, mon cher Fred? Et merci à Jamel et à Aurore. Et également, comment s'appelle notre stagiaire? Je suis un peu perturbé. Ismaël, qui a assisté aux répétitions et qui a trouvé ça sympa.
En tout cas, c'est formidable.
Alors, le menu des vraies voix à 17h30.
Sinon, on peut faire Dieu. Mais que Philippe David était joli quand il présentait l'ensemble des vraies voix en criant à pleine voix.
Ça ira, ça ira toute la vie.
Allez, à toute la vie, pardon.
Merci Frédéric Brindel. Le menu des vraies voix à 17h30. Femme de ménage, chauffeur livreur, ouvrier agricole. Les nouveaux députés sont-ils une chance pour le débat politique? À 18h30, notre grand débat. La France risque-t-elle d'être ingouvernable? Vous voulez réagir? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux. Si je vous dis que j'ai envie, après avoir chanté, de pousser un coup de gueule, les vraies voix.
Ça nous étonnerait.
Vous allez comprendre, vous allez être d'accord. À Alors, pas content du tout. Pas content du tout, du tout, du tout, puisque finale du top 14, ce sera vendredi soir sur Sud Radio avec notre équipe du rugby, Alexandre Priam, François Trio, Daniel Herrero, bref, toute l'équipe. Et comme pour la finale de la Ligue des Champions et le France-Danemark de Ligue des Nations, grève du RERB, enfin pire, du RERB et du RERD.
Ah,
les deux
là,
lignes qui...
La totale,
voilà.
Quoi, sympa.
Donc pour aller au Stade de France, qui fait quand même la bagatelle de 80 000 places, il y a trois lignes, le RERB, le RERD et la ligne 13, qui sont toutes trois bondées les soirs de match. Inutile de dire qu'avec seulement une ligne ouverte, et qui n'est pas celle qui est le mieux desservie à Paris, les rames qui ne sont pas extensibles vont être plus que bondées pour arriver au stade ou pour en repartir. Moi, ça m'est déjà arrivé de mettre deux heures pour arriver à monter dans un métro, vous voyez un peu. Et que malheureusement, ça va poser des problèmes de sécurité, notamment avec les retards, les gens qui vont arriver après le début du match. Alors, cette nouvelle grève pour un événement festif me semble, à mon avis, purement scandaleuse et montre une image déplorable de la France. Sympa pour les supporters castrés et montpelliérains qu'on salue, qui vont traverser toute la France pour voir jouer leur équipe tenter de gagner le Brennus et qui ne seront peut-être même pas à l'heure dans les tribunes. Philippe Bilger.
Votre indignation est totalement légitime, mon cher Philippe, et notamment sur l'abus des grèves, il y en a assez. Mais je dirais que le seul élément positif, c'est qu'on a affaire à deux équipes et un public de rugby et qui ne posera pas aucun problème. Je suis emballé par la tenue des publics de rugby et des joueurs en général, ce ne sont pas des voyous, mais ça n'altère en rien la justesse de votre indignation.
Votre amour pour le rugby est parce que vous êtes un des piliers des vraies voix.
Non mais oui, mais j'aimerais tellement. Mais le rugby,
ah bah, pilier des vraies voix, oui, pilier
sur
le terrain.
J'adore de plus en plus le rugby. J'adore. C'est pas la vulgarité du foot.
Caroline Pilastre.
Je trouve ça extrêmement dommageable, pour ne pas dire nul. C'est un manque de considération vis-à-vis de ce public. Voilà, ça va être encore le bazar. J'espère qu'il n'y aura pas trop de malaise, que les gens pourront se rendre au stade normalement, qu'il ne se passera pas ce qui s'est passé au Stade de France récemment non plus. Voilà, c'est un peu inquiétant, on se dit, au niveau de l'insécurité et au niveau du bien-être de ces personnes.
C'est Jean Dorido.
Oui, non, alors écoutez, alors figurez-vous que j'ai une certaine maîtrise des transports en commun en Île-de-France et notamment de la ligne 13 parce que j'ai enseigné...
Vous avez un doctorat en psychologie et une maîtrise des transports en commun, c'est
mais
ça?
Exactement, voilà, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que les deux se rejoignent parce que j'ai enseigné la psycho, figurez-vous, à Saint-Denis, à Paris 8, qui est au bout de la ligne 13. Et j'ai eu la joie de pratiquer la ligne 13 le matin aux heures de pointe.
C'est
absolument effrayant quand, à peine arrivé à Saint-Denis, le métro est complètement bondé, c'est absolument l'horreur. Cette ligne, elle est surchargée en permanence en réalité toute l'année. Et alors sur la grève, bon, c'est un droit de faire la grève en France, bon, c'est comme ça. Après, c'est vrai que ce qui est triste, je trouve, c'est que je ne suis pas sûr que les personnels de la RATP soient les moins bien lotis des travailleurs français. J'ai vraiment le sentiment que la RATP, quand même, c'est une bonne maison qui prend vraiment soin de ses agents. Et puis en plus, ce qui est d'autant plus triste, c'est que on sait que le sens de l'histoire, c'est qu'il n'y ait plus de chauffeurs déjà dans la ligne 1, dans la ligne 14, il n'y a plus de chauffeurs. On sait qu'il y aura bientôt plus de chauffeurs. Et là, c'est des lignes où il n'y a jamais de grève. Oui. Et là, tout le monde va pleurer ce jour-là en disant, mais quand même, on aurait pu faire en sorte de conserver l'emploi.
Parce qu'en plus, j'ai oublié de le dire, on ne peut pas se garer au Stade de France, c'est quasi impossible.
Et puis, c'est mal de prendre sa voiture.
Oui, puis c'est mal
de prendre
sa voiture. Jean, votre enseignement n'a jamais eu aucun impact sur le problème de la grève dans les RER?
Mais allez savoir.
En termes de fatigabilité,
c'est un sujet à creuser, me semble-t-il.
Non, mais c'est vrai qu'en plus de ça, en dehors de ce qui va se passer et qui est lamentable pour ce public, c'est de pire en pire les transports en commun. Comme toi, je les prends régulièrement et avec la hausse du carburant, les pistes cyclables, il y a de plus en plus d'affluence et on est vraiment comme des sardines.
Et vous me permettrez de terminer par une métaphore rugbystique. Quand un joueur se prend un gros plaquage, on dit il a pris l'autobus, et bien écoutez, les supporters vont devoir prendre l'autobus à condition évidemment que ceci ne soit pas en grève. Les vraies voix, on se retrouve tout de suite pour les tours de table de l'actualité avant notre premier débat. Femmes de ménage, chauffeurs, livreurs, ouvriers agricoles, les nouveaux députés sont-ils une chance pour le débat politique? Et vous êtes 75 14,6% à dire oui.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilas, Jean Dorido, c'est l'heure des tours de table de l'actualité.
Mais maniez-vous le tronc, on va bientôt se mettre à table.
Tout de suite, là. Ça a commencé?
Oui.
L'émission a commencé?
C'est ce que je viens de dire.
Excusez-moi, je ne savais pas que l'émission avait commencé.
Ah, d'accord.
Le tour de table
de l'actualité.
Et mon cher Philippe Bilger voulait parler d'Emmanuel Macron et la pression.
Oui, par moments j'en ai assez des banalités présidentielles. Je ne parle pas d'Emmanuel Macron forcément, mais il semble que tous les présidents ont un certain nombre de propos obligatoires, et notamment à chaque fois qu'il y a un événement grave en France, une crise, un bouleversement, qu'il soit électoral ou non, on entend régulièrement ou on lit aussi le président a l'intention de résister à la pression, comme si résister à la pression était une qualité fondamentale de d'un président de la République. Je pense au contraire qu'il y a un certain nombre de poncifs autour de la présidence de la République, d'Emmanuel Macron ou des précédents, qui sont absurdes. Il n'est pas honteux de ne pas résister à la pression quand le peuple a dicté sa loi. Alors entendons-nous, il doit rester en place. Hein. Je ne suis pas un dangereux révolutionnaire, mais je trouve lamentable qu'Emmanuel Macron, pour déplaire profondément à ceux qui attendaient de la rapidité de lui sur beaucoup de plans, fasse exprès de tarder. La première ministre lui a présenté sa démission, il l'a refusée, et il n'aurait pas été absurde qu'il l'accepte. Il faut qu'il cesse de vouloir instaurer un rapport de force avec une communauté nationale qui, de manière très contradictoire et équivoque, l'a d'une certaine manière giflé, comme disait Libération le lundi matin.
Caroline Pilastre.
Je suis d'accord avec vous,
Philippe. Mettez la pression
Philippe.
À Philippe Bilger.
Non, jamais, ah ben, c'est un ami. Hein,
j'aimerais
de la vie,
tellement
hein.
la voir de Caroline.
Alors si vous voulez, Philippe, voilà, vous laisser. Je vous mets la pression au plateau. Hein.
Philippe,
bref,
faire un tour.
Non, mais alors pour répondre à votre question, concernant la démission de la Première Ministre, ça a toujours été refusé. C'est une institution depuis la Ve République que le président de la République refuse la démission du Premier ministre. Donc ça ne m'a pas choquée. Maintenant, sans vouloir faire ma psy de comptoir, hein, je parle de ta profession, Jean, je pense évidemment qu'Emmanuel Macron a été extrêmement déstabilisé, puisque Jupiter est tombé de son plafond de verre suite aux résultats assez désastreux de ces législatives. D'un autre côté, on dit, mais ce sont des on-dit, hein, nous ne sommes pas évidemment dans leur petit papier, qu'ils seraient dans un déni actuellement de ce qu'il s'est passé, parce que Absolument. C'est la première fois depuis 2017 qu'il reçoit une claque.
C'est sa première défaite électorale à une élection nationale.
Tout à fait. C'est un homme, c'est on vrai. Le sait, de 44 ans, qui est le plus jeune président de la République, qui a réussi à aligner beaucoup d'étoiles depuis 2017, et il se pensait, je pense... de dire, désolé d'être redondante, intouchable. Et là, il vacille. Donc, à voir ce qu'il va faire en termes de remaniement, c'est sûr que ça ne pourra pas durer des semaines. Moi, j'ai été un peu choquée de savoir qu'actuellement, il continue à conserver les ministres qui ont perdu aux législatives. Mais d'un autre côté, a-t-il le choix ? Est-ce qu'il reste encore beaucoup de personnes qui veulent être à ces postes ?
Vraie
Et
question.
Puis, il ne va pas les garder longtemps, puisqu'il y a la situation internationale, la composition du nouveau gouvernement.
Et certaines rumeurs disent qu'il devrait parler d'ici demain soir.
Ah bon ? Pardon, Jean, d'avoir coupé ce qui va être le moment clé de...
Jean Dorido, quand on lui dit pression, il dit 1664.
Entre autres, avec modération. Toujours, évidemment. Vive les brasseries françaises.
Absolument.
C'est vrai, vous avez raison. Non, mais alors, pour le coup, pour rester sur le sujet de la pression... Et par esprit de contradiction, il me semble que c'est tout à fait compréhensible que les journalistes valorisent cette capacité à ne pas craquer sous la pression. On parlait du sport à l'instant. C'est un fait que sous pression, il est très fréquent de commettre des erreurs. La pression est mauvaise conseillère. Et que ce soit au jeu d'échecs, au bridge, dans les sports, je sais pas, la boxe, le football, ce qu'on veut, c'est vrai qu'on a tendance tous spontanément à admirer ces équipes qui savent justement rester lucides. Garder leur couloir, c'est le cas de le dire, pour rester dans le sport, même sous la pression. Quant à la suite des événements, ça va être évidemment passionnant de regarder comment va s'organiser, je dirais, ce gouvernement sans majorité absolue à l'Assemblée. Et je ne serais pas étonné que cette claque, précisément, humanise notre président aux yeux des Français, parce que, précisément, ça rappelle qu'il est comme tout le monde, Emmanuel Macron. Il n'est pas justement intouchable, précisément. On peut espérer que, quand même, il en prenne conscience. Et je ne serais pas étonné que ça le mette un peu dans une posture un petit peu à part, peut-être presque comme dans les périodes de cohabitation précédentes. On se souvient, Chirac-Jospin, Mitterrand-Balladur, Mitterrand-Chirac. Il y a une espèce... disons que dans le meilleur des cas, c'est ce qui risque de se passer et ça le rendra sans doute plus sympathique aux yeux des Français.
Le tour de table de Caroline Pilas, c'est un hommage à Louis Braille.
Exactement, Philippe. Demain, le 22 juin 2022, aura lieu une grande journée de commémoration devant le Panthéon en l'honneur de Louis Braille, qui est l'inventeur de génie du braille et qui est devenu aveugle suite à un accident. Il a été panthéonisé en 1952. Cette écriture a permis à des millions de malvoyants et d'aveugles dans le monde d'accéder à l'éducation, à l'information et à l'insertion dans la société. Demain, il y aura donc une grande journée de sensibilisation avec des associations type l'AVH, l'association Valentin Henry, ou l'INJA, l'Institut National des Jeunes Aveugles, pour sensibiliser le grand public à cette écriture. Il y aura également du jazz, donc ce sera festif. Voilà, aujourd'hui, je tenais à prêcher pour ma paroisse et à rappeler que le braille est né en 1829. Merci à Louis Braille.
Philippe Bilger.
Quelqu'un a donc été au Panthéon et il méritait. Alors c'est bien, bravo.
C'est cramé vraiment. Pour certains.
Caroline, j'ai vu le film Ridicule et on voit quelqu'un qui apprend les signes. Et ça ne pouvait pas être Braille qui jouait. Je veux dire, qui était le personnage représenté. Il a vécu à quelle époque exactement ?
Il a été panthéonisé en 1952 à l'occasion, pardon, du centenaire de sa mort.
Ah bah donc ça. Vous ne l'avez pas vu.
Patrice Lecomte, Ridicule.
Si, vous l'avez vu aussi.
Celui qu'on montre.
C'était plus les signes.
Oui.
Alors que le Braille,
c'est le langage. Ce sont les points.
C'est les petits picots que les non-voyants touchent pour lire.
Il faut que vous sachiez quand même qu'il y a deux siècles, nous étions considérés comme des demeurés au sein de la société, parce que justement, nous n'avions pas accès à une écriture. Il n'y avait pas non plus les nouvelles technologies. Et de fait, nous étions mis au banc de la société.
D'accord.
C'est vraiment important de le rappeler. C'est effrayant de se dire qu'il n'y a pas si longtemps que ça, des personnes non-voyantes étaient considérées comme effectivement des demeurées parce qu'elles n'avaient pas accès à la lecture et à l'écriture. Et oui, chapeau, quoi. Il y a quand même des savants comme ça qui...
Comment il a inventé ça ?
Il y aurait un film, un biopic.
C'était un génie.
On parlait de cinéma. On peut le dire aux scénaristes qui nous écoutent, il y aura un bon biopic à écrire.
Comment il a trouvé ça ? Et on peut dire une chose, et c'est un hommage à Caroline dans son combat pour le handicap. Il y a 3 députés handicapés qui ont été réélus ou élus à l'Assemblée nationale. Il y a évidemment Damien Abad, dans la majorité présidentielle. Il y a un premier député aveugle sous la 5e République. Il y en avait eu un sous la 3e et la 4e. C'était un député de Guadeloupe ou de Martinique, dont j'ai oublié le nom, qui avait été grand invalide de guerre, qui avait été blessé et qui était devenu aveugle lors de la Première Guerre mondiale. Il s'appelle José Borin. Il est élu Rassemblement national dans l'Aisne. Et un député en fauteuil roulant, c'est le premier, lui, a priori, Sébastien Pétavi, qui est député de la NUPES, élue en Dordogne. Et je pense que c'est important pour notre regard sur le handicap, Jean Dorido.
J'espère que l'Assemblée nationale est bien accessible aux fameuses PMR, justement.
Ça, malheureusement.
Ah oui, parce que alors là, s'il est en fauteuil...
C'est un vrai scandale, mais au moins, ça s'appelle le droit à la différence. Ah bah oui. L'inclusion,
c'est quoi, PMR,
c'est cette...
Les personnes
à mobilité réduite.
En fauteuil, en béquille, qui n'ont pas accès, qui ne peuvent pas monter des escaliers, par exemple. Même en marche, c'est pas possible.
Les vraies voix, 17h26. Dans quelques instants, notre premier débat. Femme de ménage, chauffeur, livreur, ouvrier agricole, les nouveaux députés sont-ils une chance pour le débat politique ? Et vous êtes 72,9% à dire oui. Vous voulez réagir ? Le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec ce trio, cette Dream Team avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Jean Dorido. On a beaucoup parlé de Rachel Keke, femme de ménage élue députée NUPES du 94, le Val-de-Marne, dimanche dernier. Mais il y a une autre femme de ménage qui a été élue dimanche à l'autre bout de la France et de l'échiquier politique, Lisette Pollet, élue députée RN de la Drôme. Il y a aussi d'autres profils atypiques dans le Palais Bourbon, Sébastien Delogu, chauffeur de taxi, et député NUPES des Bouches-du-Rhône, on l'a entendu ce matin dans le Grand Matin, de Patrick Roger et Cécile de Ménibus et Joris Beauvais, chauffeur livreur et député RN de l'Allier. Et il y a d'autres profils atypiques. Côté artistique, Jérémy Yordanov, 39 ans, est artiste peintre abstrait et député NUPES de l'Isère. Côté plus physique, Antoine Villedieu, député RN de la Haute-Saône et double champion du monde WRC de MMA. Ouf. Un pompier dans le Haut-Rhin sous l'étiquette Horizon, Didier Lemaire, ou encore un producteur de pommes bio, Éric Martineau, élu sous l'étiquette Modem dans la Sarthe. On est bien loin du cursus Sciences Po ENA, profession libérale ou fonctionnaire, qui a souvent squatté les bancs de l'Assemblée nationale, d'où notre premier débat. Femme de ménage, chauffeur livreur, ouvrier agricole, les nouveaux députés sont-ils une chance pour le débat politique? Et vous êtes 72,7% à dire oui. Avec nous, Aude Amadou, ancienne handballeuse professionnelle, qui a été députée La République En Marche de 2017 à 2022. Aude Amadou, bonsoir.
Bonsoir à tous.
Bienvenue sur Sud Radio. Comment s'intègre-t-on comme député quand on était sportif professionnel? Bon, même si en tant que handballeuse, vous savez aller droit au but.
C'est surtout que le sport, c'est quand même des milieux très sectaires et la politique l'est aussi. Donc, c'est quand même des milieux qui sont parallèles et qui se ressemblent énormément avec toutes les différences, mais également tous les reproches qu'on peut faire en termes de sexisme, égalité homme-femme. Enfin, bon, c'est des milieux très, très proches. Donc, je n'ai pas été trop perturbée par le fait d'appréhender ce nouvel environnement.
Philippe Bilger, alias le Nicolas Karabatic des vraies voix.
Non,
vous voyez, je dans le handball.
Il joue bien, hein. mais je ne... Vous avez cité un certain nombre de personnalités.
Je ne les ai pas tous cités.
Hein, non, mais je comprends bien qu'ils vont rentrer à l'Assemblée nationale. Mon premier mouvement est de dire oui avec enthousiasme. Et je ne voudrais pas tomber dans la démagogie tout de même. Mais à partir du moment aussi, et je reprends ce qu'a dit Elisabeth Lévy ce matin dans la matinale de Patrick Roger, elle résiste à toutes les démagogies, elle parlait de Rachel Keke, dont j'aime beaucoup l'arrivée dans un monde trop homogène, mais à condition que ses personnalités, comme elle l'a fait, ne se félicitent pas forcément de n'avoir fait... Elle n'a fait que le CM2, elle en est presque fière. Ça ne fera pas d'elle une mauvaise députée, forcément, mais il ne faut peut-être pas exagérer dans cette volonté de faire apparaître des personnalités qui vont apporter du sang neuf dans l'Assemblée nationale, mais pas forcément toujours un... Pour être neuf, il faut aussi qu'il soit pertinent.
Aude Amadou, vous pouvez lui mettre un shoot à 7 mètres.
Non, mais moi, ce qui est à retenir par expérience, c'est-à-dire effectivement faire rentrer des personnes qui ont des parcours de vie, c'est très intéressant à l'Assemblée, mais il faut également avoir ces personnes qu'on va dire plus techniques, on en a besoin, il faut avoir un juste milieu. Et puis de toute façon, je vois bien, vous avez évoqué tout à l'heure votre sondage avec l'engouement des Français. Moi, je rappelle qu'en 2017, le 19 juin 2017, tout le monde était ravi de nous avoir parce qu'on incarnait cette société civile. Le 20, on était tous pourris comme tous les politiques. Donc je pense qu'il y a vraiment... Il faut vraiment faire attention à cette approche. Et puis, c'est la finalité. Quelle finalité? C'est-à-dire que c'est vrai que il y a ce qui est vraiment important, c'est député de la majorité, député de l'opposition, et qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on en fait des personnes qui vont incarner, qui vont travailler leur mandat de député? Ou est-ce qu'on en fait ce qui nous a été reproché, et d'être des députés godillots? Donc, de toute façon, il faut vraiment savoir quelle est la finalité. Ça, c'est la vraie problématique et c'est le vrai problème à résoudre.
Caroline Pilastre.
Sur le principe, je trouve que c'est une bonne chose de faire rentrer des gens, entre guillemets, de la société civile qui sont connectés à la réalité, connectés au terrain. Maintenant, il ne faudrait pas en faire non plus des symboles. Ils ont été élus pour être députés. Ils ont comme intérêt, évidemment, la France. Cela demande une grande responsabilité face à ce qu'on appelle des élites. Je déteste ce terme parce que pour moi, c'est mégalo, c'est misanthrope. On peut s'appeler élite et venir de l'ENA en termes de cursus scolaire, ou ne pas avoir fait d'études et avoir plein de bon sens pour trouver des solutions au quotidien des Français. Donc déjà, voilà, je tiens à rappeler ça. Maintenant, madame, moi, je voudrais savoir, avec votre profil atypique, évidemment, au sein de cette 5e République, qui est une monarchie républicaine, comme on le sait, et vous le rappeliez, la politique est quand même un milieu difficile, de requins, où on est perçu souvent de manière dévalorisée ou dégradée quand on n'a pas justement fait les mêmes études qu'une majorité. Est-ce qu'ils vous écoutaient de manière classique, légitime, au même niveau que justement tous ces petits groupes qui pouvaient se retrouver précédemment dans les classes, par rapport à votre quotidien? Est-ce que vous avez pu leur apporter votre vécu? Parce que vous avez cette différence justement vis-à-vis d'eux, concernant la réalité sur le terrain, et vous pouviez leur dire, ben vous voyez, mes administrés qui me ressemblent dans ma journée me rapportent les mêmes faits que moi je peux vivre. Contrairement à vous, parce qu'à l'inverse, il ne faut pas non plus stigmatiser, qui n'êtes pas dans ces milieux-là. Donc moi, je voulais savoir si vraiment vous aviez une écoute dans ce sens-là.
Aude Amadou.
Alors moi, l'écoute, je l'ai eue parce que j'appartenais justement à une majorité. L'écoute, vous ne l'aurez pas forcément quand vous appartenez à
l'opposition.
Il faut être clair là-dessus. Après, par rapport au parcours, moi, j'ai pas du tout subi quelconque discrimination du fait de ne pas avoir un cursus, on va dire, académique correspondant à Sciences Po, à l'ENA. Au bout de 6 mois, j'ai pu être rapporteur de la loi olympique, qui était une loi qui parlait de tout sauf de sport parce qu'elle était très technique. Donc, il y a eu cette confiance qui m'a été donnée. Et après, les administrateurs de l'Assemblée sont là pour vous accompagner et ils sont d'une grande qualité.
Jean Dorido.
Oui, non, alors écoutez, d'abord, alors, juste par rapport à ce qu'a pu dire Philippe Bilger sur Madame Rachel Keke, vraiment, je trouve ça extrêmement réjouissant, l'arrivée de cette dame à l'Assemblée nationale. Je l'ai vue à la télévision l'autre soir, et vraiment, j'étais fier d'être français en voyant cette dame, femme de ménage, accéder quand même à une fonction, à mes yeux, très prestigieuse, d'être un élu comme ça de la République.
C'est 1577e.
Et je trouve ça vraiment ultra inspirant et je trouve que c'est bon quand même que notamment les plus jeunes qui hélas ne votent plus se souviennent que c'est ça la France quoi, c'est cette capacité pour chacun et pour chacune d'accéder aux plus hautes fonctions et quelles que soient les cartes reçues au départ. Bien sûr que ça n'est pas à mettre en avant d'arrêter en CM2, en même temps sans faire de mauvais esprit il y a tellement d'hommes politiques qui ne savent rien faire de leurs 10 doigts, elle au moins elle sait faire le ménage cette dame, donc c'est vraiment
qu'est-ce que je vais faire? Je suis ministre, je ne sais rien faire. De funeste dans la folie des grandeurs.
Merci pour Gérard Houry. Excellent. Bon. Et moi, j'aurais une question pour notre invité, Aude Amadou. C'est que, d'abord, chère madame, je ne sais pas si vous vous êtes représentée à la députation.
Je me suis présentée et j'ai perdu.
Et alors ma question, c'est précisément comment ça se passe? Parce qu'il y a des politiques qui font de la politique. Leur métier, c'est respectable, il en faut, sans doute on en a besoin, et donc ces personnes sont dans un écosystème qui leur permet, je dirais, de rebondir professionnellement. Pour une dame comme vous, j'imagine, je projette ma réalité sur vous, pardon, j'imagine que vous avez besoin de travailler pour vivre, vous vous retrouvez du jour au lendemain sans mandat, j'imagine peut-être sans revenu, sans rien, et donc comment ça se passe? Est-ce que vous êtes accompagnée par votre ancien mouvement LAREM ou par peut-être la Soviétie. Je sais, chez les militaires, par exemple, il y a un vrai service quand les jeunes terminent leur contrat d'engagement. Oui. Il y a un vrai, vrai service à l'armée pour les recaser, pour leur permettre de retrouver la vie civile et d'avoir un job. Est-ce qu'il y a la même chose, par exemple, à l'Assemblée nationale?
Aude Amadou.
Alors, avant de vous répondre, je vais juste rebondir sur ce que vous évoquiez juste avant. C'est-à-dire, vous expliquez, oui, on trouve ça très bien, il y a un élan. Cet élan, on l'a vécu en 2017. Et en fait, on voit toute la contradiction des Français. C'est-à-dire qu'à chaque réélection, nous, on a mis la parité, on arrive avec beaucoup de femmes, on arrive avec de la diversité, aussi bien sociale que raciale, on va le dire clairement. Et effectivement, les huissiers sont arrivés en disant, c'est super, on a la France dans l'hémicycle. Mais au final, quand on regarde la situation en 2022, on relance encore la machine, mais je ne suis pas persuadée que dans 6 mois, ce soit toujours aussi enthousiasmant. Ça, c'est une réalité, je l'ai vécu. Et par rapport à l'accompagnement, en fait, on a une approche complètement différente. C'est-à-dire qu'il y a un avantage, on va dire, comparatif de ces personnes issues de la société civile, dont je fais partie, c'est qu'on a eu une vie avant l'Assemblée nationale et on aura une vie après. On ne vit pas de la politique. Donc, de toute façon, effectivement, il y a des accompagnements. Et moi, je ne suis pas dans un état d'esprit de dire « j'ai une vie avant, j'aurai une vie après ».
Philippe Bilger.
Pardon de reprendre à nouveau ce que j'ai entendu ce matin, mais ça n'est valable aussi l'arrivée bienheureuse de ces personnalités que si elles n'ont pas pour ambition de s'enfermer dans leur activité. Rachel Keke, par exemple, a dit « je vais m'occuper des femmes de ménage à l'Assemblée nationale ». C'est très bien. mais il faudra qu'à un moment donné, elle accepte d'élargir son horizon jusqu'à une forme d'universel politique. Tout ça n'est pas simple, même pour ces personnalités-là, de la même manière que pour les personnalités plus officielles, qui ne sont pas à ce point brillantes, parfois, qu'on ne puisse les vouloir tout le temps en place.
Avant de donner la parole à Aude Amadou, il y avait un député qu'on appelait le député des concierges, il y a 50 ans à Paris, bien c'était sûr. Édouard Frédéric Dupont, et... qui se faisait élire, qui faisait la tournée de toutes les loges de concierges, et c'était son surnom, Aude Amadou.
C'était un sacré gars, hein.
Non, mais je rejoins complètement ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'il y a des codes à l'Assemblée, il ne faut pas l'oublier, effectivement, on rentre avec un parcours de vie, mais très vite, moi, je me suis rendu compte que, de toute façon, il y avait des codes et il y avait comme des compétences académiques à acquérir. Et moi, comme tout Français, eh ben, j'ai été amenée à retourner sur les bancs de l'école et à retourner à la formation, c'est-à-dire que c'est indispensable, c'est-à-dire que tout va ensemble, les compétences académiques et les parcours de vie. L'un ne va pas sans l'autre, donc de toute façon... À mon sens, hein, moi, c'est ce que j'ai fait. Je suis retournée sur les bancs de Sciences Po Paris, je suis retournée à l'ENA pendant 3 ans parce qu'il faut ces compétences. Et effectivement, des personnes qui ont fait de la politique toute leur vie et qui ont ces parcours manquent en fait d'expérience de vie. Mais dans tous les cas, ces nouveaux députés vont devoir également se former parce qu'il faut se former à faire des amendements, porter sa vision, porter aussi des projets de territoire. Sauf si effectivement vous inscrivez dans une lignée où vous allez d'un seul homme déposer 23 000 amendements pour faire de l'obstruction. Voilà, ça dépend ce que vous voulez.
Caroline Pilastre.
Oui, c'est vrai que vous le rappeliez, la politique est un vrai métier. C'est un métier de terrain et c'est un métier d'expérimentation techno, voilà, sans que ce soit non plus insultant. Oui. Mais vous avez appris... Mais vous leur avez aussi appris à toutes ces personnes qu'on dit souvent déconnectées parce que beaucoup sont là depuis des décennies. On les connaît tous. Et justement, s'il y a autant d'abstention, c'est que beaucoup de Français, beaucoup de citoyens reprochent le manque de proximité avec le citoyen lambda dont nous sommes nombreux à faire partie. Maintenant, qu'est-ce que vous comptez faire? Parce que forcément, vous avez une sacrée expérience. Est-ce que ça ne va pas vous manquer? Puisqu'on dit quand même que la politique est un virus. Est-ce que vous voulez faire des conférences pour apprendre, transposer le savoir que vous avez eu pendant 5 ans auprès de jeunes, puisqu'après tout, c'est une transmission, ou vous voulez vraiment repartir dans une vie classique?
Aude Amadou.
Bah, on va dire que depuis dimanche, on est déjà en train de résoudre toutes les problématiques administratives. Moi, je sais que j'avais porté des projets de territoire qui me tenaient énormément à cœur autour de la prévention, de la réinsertion auprès des jeunes au niveau de la sécurité. Ça, c'est des choses que je vais continuer à faire parce que c'est aussi un engagement politique, mais qui se fait différemment sur le terrain et par le biais des associations. Après, à titre personnel, je vous avouerai qu'aujourd'hui, vous dire ce que je vais faire exactement, j'en ai pas la moindre idée. J'ai déjà mon CV était déjà refait. Enfin, j'ai déjà refait mon CV. Enfin, je rentre dans le cadre de tout Français qui est confronté aux problématiques de trouver un emploi. Donc moi, je trouve pas ça dégradant. Justement, c'est aussi un moyen de se remettre en question, de prendre du recul. Effectivement, la politique est un virus et très certainement j'y retournerai. Parce qu'on m'a appris une chose en politique, c'est qu'on n'est jamais mort et mieux faut se méfier des morts.
C'est sûr.
Mais voilà, vous voyez. Mais oui, c'est ça. Mais moi, j'ai appris plein de choses, mais c'est la réalité. Mais oui, j'étais fort d'une expérience humaine déjà, parce que tout le monde dit que la politique, c'est un milieu qui est pourri. Ben, y a pas que des gens pourris. Moi, j'ai rencontré des gens extraordinaires.
C'est tout à fait vrai.
Et du coup, voilà, des personnes. Moi, je prends Cédric Villani. Enfin, voilà, la politique m'a permis de le rencontrer, c'est devenu un ami. Et voilà, et même s'il y a eu des divergences, j'aurais jamais rencontré ce génie des mathématiques. Donc, il y a cette aventure humaine qui est très intéressante, et il y a cette proximité. Et je ne sais pas ce que je ne peux pas vous dire ce que je ferai demain, mais
je ne
suis pas du tout abattu, j'ai le moral.
Aude Amadou, vous avez parlé de la résurrection des politiques. Je vais vous donner un conseil pour trouver un emploi. Il suffit de traverser la rue, hein. Mais je vous préviens, ce n'est pas de moi.
Ah, mais
ça, c'est de mauvais esprit, ça, Philippe David.
Si vous n'étiez pas déconnecté au territoire, vous sauriez qu'on n'a plus besoin de traverser la rue. Ça, c'est la vraie problématique actuelle des entreprises.
En tout cas, vous avez beaucoup de flamme, Aude. Vous êtes très doué, hein.
Effectivement, je ne m'étonne pas de vous entendre expliquer que vous allez continuer la politique. J'ai le sentiment que c'est quelque chose qui vous anime. Et ma question, bon, c'est que là, on a l'Assemblée qu'on a aujourd'hui. Il n'y a aucune majorité absolue. Je ne sais pas, vous avez été député pendant 5 ans dans le camp de la majorité présidentielle. Si vous aviez l'oreille du président, là, et si vous aviez un conseil à lui donner, ce serait quoi?
Bah, le conseil que je
peux faire de l'humour, dissolver l'Assemblée nationale pour que j'ai une chance d'être réélu.
Non, même pas parce qu'au sortir de dimanche soir, les premiers propos que j'ai tenus, c'est qu'effectivement, personne n'a gagné. Personne n'a gagné. Par contre, les seuls perdants, ce sont les Français. Et ça, c'était la réalité. Mais si j'avais un conseil, et vous l'avez évoqué tout à l'heure au début de l'entretien, c'est qu'il faut à la fois des gens issus de la technocratie et à la fois issus des personnes qui ont des parcours de vie. Et si j'ai un conseil à notre président, c'est qu'il faut pas en faire de la politique et qu'il faut trancher. Il faut aussi avoir personnes qui sont techniques.
Je ne voudrais pas polémiquer pour le plaisir, seulement je vous trouve sévère, madame la députée, quand je vous entends dire que les Français ont perdu, parce que cette Assemblée, manifestement, est à l'image de la France.
Alors certes,
elle n'est plus, monolithique comme lors du précédent mandat, d'accord. Peut-être que c'est regrettable d'un point de vue opérationnel pour le gouvernement. Pour autant, elle est manifestement bien plus à l'image de la France et des Français que l'Assemblée sortante.
Le Parlement va
reprendre. Le mot de la fin, Odamadou.
En fait, pour rebondir ce que vous disiez, c'est que quand je dis que les Français sont les grands perdants, c'est qu'on le voit tout de suite. Je l'ai vécu. J'ai vécu les 5 ans avec 17 députés qui ont fait que d'obstruction et qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir des partis parlementaires, des groupes parlementaires qui soient forts. Et en fait, il y a eu quand même une forme de tromperie, moi, ce matin, quand j'y étais. C'est-à-dire que tout a éclaté. C'est-à-dire que cette force dont les citoyens voulaient, moi, je vois sur mon territoire autour de la NUPES. En fait, aujourd'hui, ils sont complètement perdus et ils se disent mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, on a réclamé la proportionnalité. Et là, on a une assemblée.
C'est mieux représenté qu'avant. Merci beaucoup Odamadou, ancienne handballeuse professionnelle qui a été députée LAREM de 2017 à 2022. Verdict sur Twitter: femme de ménage, chauffeur, livreur, ouvrier agricole, les nouveaux députés sont-ils une chance pour le débat politique? Vous êtes 72,6% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec la chronique politique de Frédéric Brindel et à mon avis ça va swinguer.
Les Vraies Voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des Vraies Voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre et Jean Dorido. C'est la fête de la musique, ça valait bien une chronique politique spéciale, mon cher Frédéric Brindel. Et vous êtes l'homme de la situation.
Le jour de gloire est arrivé. Et oui, les chanteurs peuvent avoir besoin des politiques et le contraire marche également. Pas étonnant que chacun y aille de sa projection sur l'autre. Le journaliste Cyril Heldin l'a bien compris. Il tente de piéger le jeune ministre de l'économie de l'époque, Emmanuel Macron, qui est convaincu de son talent.
Sur le champ, peut-être qu'il peine un peu.
Non, alors là, quand vous voulez. Je suis en train d'essayer de rechercher la chanson qui pourrait caractériser le moment.
Ah.
Mais je ne la trouve pas. L'été indien, peut-être, pour un printemps.
On ira où tu voudras, quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin.
Avec le président ?
Oui. Aux couleurs de l'été indien.
En fait, il ne s'est pas démonté. Hein. Il a relevé le défi, mais ça lui faisait plaisir.
C'est alors, ce qu'il a fait de mieux.
En revanche, non. Pas convaincu.
Mais ça ressemblait à une aquarelle de Marie Laurence, hein,
oui,
j'ai trouvé.
Oui, c'est vrai. Alors,
il
justement,
relève des défis foireux. Oui.
Justement, pas c'est convaincu du tout de son talent, Marlène Schiappa, ministre macroniste, qui chauffe l'Assemblée en campagne régionale. Pas convaincu, mais pas complexé non plus.
Quand le parc floral se met à chanter, c'est l'île de France qui va s'ambiancer. Votez Laurent, votez Laurent, allez.
Stop, madame Schiappa, stop, désolé. Bon, on remercie le monsieur qui, avec un porte-voix, a essayé de la soutenir, mais personne n'a soutenu personne. Et c'est finalement sympa de chanter avec les électeurs ou les sympathisants. D'ailleurs, Nadine Morano, ministre à l'époque, tentait le karaoké avec ses fans.
Oh, my God,
garçon. Voilà. Bon, elle a relevé le défi. Alors à droite, vous avez
Livre plus. Livre et fait l'opéra à côté.
C'est là pour connaître. Hein.
Alors à droite, ça chante, mais à gauche et à LFI notamment un peu moins. Ou plutôt si on s'inspire de chansons qui se voient de certains qui se verraient bien politiques. Vous l'avez compris. C'est-à-dire que ils chantent pas LFI, mais ils reprennent quand même certaines paroles de chanteurs. Écoutez.
La France est un pays de flics. À tous les coins de rue, il y en a 100. Pour faire régner l'ordre public, ils assassinent impunément.
Ça a été dit par Renaud avant,
oui.
Du coup.
Ah,
hein.
Oui, oui.
Alors, c'est repris par les uns et les autres aujourd'hui. Voilà.
Alors, cela dit, j'ai vu Adrien Quatennens jouer de la guitare.
De la batterie. De la batterie.
Et de la guitare.
Ah, j'ai pas vu la guitare. J'ai vu la batterie. Elle est excellente, la batterie.
Mais il se débrouille bien. Hein.
Bah, alors, vous me direz, il n'y a pas qu'à gauche qu'on puise son champ lexical dans la chanson. À droite aussi.
J'ai fait les deux écoles et j'ai tout oublié. La nuit des Carmagnols.
Ça avait tranché le débat à l'époque, oui. Hein, cette chanson de Michel Sardou.
Oui, les grèves pour l'école libre.
84,
c'est ça.
Oui.
C'est ça.
Alors, donc on en vient, chers amis vraie voix, à la question houleuse, allez, je me lance, du Rassemblement National et de son rapport à la chanson.
Il y avait Francky Vincent,
fait mes frais uniquement.
Soir,
c'est vrai, ouais.
Ils ont mis Francky Vincent pour arroser les résultats.
Mais ils ont juste Jean-Pac mes frais.
Mais elle chante
non,
pas
comme
Marine
ça.
Le Pen, hein, je l'ai entendu.
Alors,
déjà,
Marie Le Pen, je ne sais pas si elle chante bien, mais en tout cas, elle crée l'inspiration chez Philippe Catherine.
Marine Le Pen, non, Marine Le Pen, non, mais tu ne crois pas.
Tu sais, c'était samedi, là, à côté de la maison de la radio. Je marchais dans la rue, et puis il y a une fille juste devant moi, avec ses grands cheveux blonds, tu vois. J'ai commencé à la suivre parce que, je sais pas, j'avais envie de baiser, puis d'un coup, elle s'est retournée. Et là, qu'est-ce que je vois ? Putain, Marine Le Pen, non, non.
Bon, vous l'avez compris, les modernes n'aiment pas trop les Le Pen, et d'ailleurs, le contraire marche également, Jean-Marie Le Pen.
Veillons au salut de l'Empire, veillons au respect de ses lois. Si le despotisme conspire, conspirons la perte des rois. Liberté, liberté, que tout mortel te rende main.
Alors bon, voilà, Jean-Marie Le Pen. Alors dans un face-à-face avec Tapie, Le Pen pouvait de temps en temps prendre l'ascendant, mais surtout pas en chanson.
Ah oui.
Ah, c'est autre chose.
Ah oui,
Bernard Tapie.
Oui.
Il avait fait 45 tours hein, quand
oui.
Il était
ouais,
tout jeune.
Il a eu du succès.
Hein.
Ah, et c'était beau.
Ah ouais. Oui.
Très.
Alors, les chanteurs.
C'était un peu un berger dans la politique, finalement.
C'était un peu un berger
Michel,
dans la
chanson. Michel, Michel Berger, mais c'est
d'accord,
pas grave.
D'accord, très
vous
bien.
Vous avez le cerveau lent, c'est pas méchant.
Non, 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 mais c'est pas ça, parce que je me pose la question. Il y a les chanteurs politiques, ouais. Les politiques chanteurs. Mmh. Alors, du coup, on ne sait plus. Et l'homme qui mélange de plus en plus les genres, c'est lui, Francis Lalanne.
Ah. Il est jaune, ne baisse pas la garde. Il est jaune, marche et reste.
Pour éliminer les deux.
Vous la connaissiez cette chanson sur les gilets jaunes ?
Non, je ne connaissais pas.
Il a fait la chanson sur les gilets jaunes, alors il est accompagné par des gilets jaunes.
Gilets jaunes
derrière, c'est bien, vous suivez. Bon, alors évidemment, mes chers amis, et ça va plaire à mon ami Philippe David, le top, ça reste quand même l'ancien ministre de la culture brésilien, la légende, Gilberto Gil.
Dona Menina Baiana.
Alors, quand vous avez une légende comme ça qui devient ministre, là, tout le monde est d'accord. Bon, en France, la légende, c'est Johnny. Et l'ami de Johnny, c'est Sarkozy. Mmh. Alors, Catherine Sellac teste l'ancien président.
Oui, tu brûles mon esprit, ton amour étrangle ma vie. Voilà. Et l'enfer devient comme un espoir, ma chère Catherine. Bon, mais là, je peux peut-être m'arrêter, là.
Ah non, je meurs chaque soir.
Je veux partager autre chose que l'amour dans ton lit. Entendre la vie et ne plus m'essouffler sous tes cris.
Ah oui.
Je pense que ma prestation peut s'arrêter là.
Oui, il avait tout dit. Alors, du coup, ça l'avait mis dans une situation particulière avec Catherine Sellac. Bon, allez, en 2010, on prend de l'international un gala de bienfaisance à Saint-Pétersbourg. Un certain Vladimir Poutine prend le micro, accompagné par un big band, dans la salle, Depardieu, Delon, Vincent Cassel, Kevin Costner l'applaudissent.
I found my thrill.
C'est Poutine qui chante. Alors il y a les chœurs derrière, il les avait briefés. Hein.
belle chanson.
Magnifique.
When I found you.
Alors donc c'est du vrai rhythm and blues, hein, c'est du swing biscotte qui vient de la Bavière, c'est de la soul music à l'Oural, hein, voilà, c'est ça. Du coup, 2 ans plus tard, Barack Obama relève le défi de l'autre côté du rideau, Jean. Voilà. Et donc un défi lancé par Mick Jagger et B.B. King et leurs amis stars à la Maison Blanche. Vous allez le constater, Poutine Obama, ce n'est pas la même soul music. Et voilà, Barack Obama. Alors faites votre choix,
Américains,
Poutine, Obama,
sens,
c'est comme
Obama,
vous voulez. En tout cas, à vous tous, les vraies voix, bonne fête de la musique.
Et merci beaucoup, mon cher Frédéric, pour cette excellente chronique qui a swingé. On était bien Tintin, comme disait votre ami Pascal Sevran. À 18h30, notre grand débat. La France risque-t-elle de devenir ingouvernable? Vous êtes 53,6% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec les vraies voix.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ils sont encore là pour notre plus grand bonheur. Philippe Bilger, président de l'Institut de la Parole, auteur du livre Libre propos d'un inclassable, publié à la Nouvelle Librairie. Pourquoi vous me regardez
en effet,
comme ça?
En effet, mais je vous regarde parce que c'est un des bonheurs des vraies voix de vous avoir face à moi.
Parce que vous vous aimez, en fait, c'est tout.
Mais bien
oui,
sûr.
Mais on
y a-t-il
s'aime.
Besoin de raison?
Je t'aime.
Il y a quelque chose entre
nous. Ne tombe pas dans une forme de sensiblerie, ma chère Caroline.
Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel. Bonsoir, Caroline.
Rebonsoir, Philippe. Rebonsoir, messieurs. Et encore bravo pour cette chanson. J'étais en train de réécouter la vidéo sur Twitter. Que de commentaires élogieux.
Ah bah écoutez, c'est parfait. Et Jean Dorido, le psy, docteur en psychologie, créateur de l'application Zenfi, en pleine forme.
À fond.
Qui est le cas le plus avéré en termes de psychologie, Caroline ou Philippe?
Si seulement il pouvait dire que c'est moi. J'adorerais. Il faut singulariser même par le pire.
C'est important de cultiver sa singularité. C'est tellement vrai.
Absolument.
Nous
mais le débat est pluriel.
Surtout ça.
Voilà. À 18h30, notre grand débat. La France risque-t-elle de devenir ingouvernable? Vous êtes 53,9% à dire oui. On en débattra avec Didier Mauss, constitutionnaliste. Un tour de table de l'actualité, ça vous dit?
Ah oui.
Eh bien,
oui.
C'est parti.
Les vraies voix Sud Radio.
Et mon cher Jean Dorido, on sort un tonneau puisque vous allez nous parler du syndrome de Diogène.
Ah, très bon. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit le même Diogène.
C'est pas Diogène le cynique, alors celui qui était dans son tonneau.
Non, je crois que c'en est un autre.
Et qui avait dit à Alexandre le Grand, ôte-toi de mon soleil.
Monsieur Adélef.
Vous êtes allé sur Google.
Non, absolument pas, cher ami.
Il n'en a pas besoin, Philippe Bilger.
C'est très bon. Diogène,
c'est un papier du Parisien aujourd'hui en France qui rappelle la difficulté complexe causée par ce fameux syndrome, le syndrome de Diogène. Ces personnes qui, souvent après un choc psychologique, la perte d'un proche, quelque chose comme ça de traumatisant, se mettent à accumuler, ne jettent absolument plus rien, même les ordures, elles gardent tout chez elles. C'est effrayant. C'est assez mystérieux, même pour les savants. Et bon, c'est très difficile pour ces personnes qui vivent ça, et c'est très difficile pour le voisinage. Il y a eu récemment des incendies en région parisienne qui ont été dus précisément à ces accumulations d'objets et d'immondices. Il y a eu 3 personnes d'une même famille qui sont décédées parce que le père, qui lui s'en est sorti, était atteint de ce syndrome. Et ça rappelle que encore une fois, la santé mentale, c'est un vrai, vrai sujet dans notre pays. C'est vraiment la 5e roue du carrosse en termes de santé publique. On n'a plus de psychiatres. Les psychologues ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie ou très très mal. Une place en CMP, il faut des semaines, parfois des mois entiers. Et ce sont pourtant des personnes qui ont ô combien besoin d'un suivi, qui ont besoin de structures adaptées pour les prendre en charge. Et c'est effrayant de voir à quel point des personnes souffrent, celles qui sont atteintes, et puis le voisinage, parce que il y a en plus très souvent avec ce syndrome, une incapacité même à prendre soin de soi, les personnes ne se lavent plus.
Les gens qui veulent acheter une maison, j'ai connu ce cas où le propriétaire était atteint de ce syndrome.
C'est terrible. Il parle même d'un influenceur, il y a un monsieur qui a monté, c'est intelligent, il a monté une société de nettoyage qui s'appelle Diogène Propreté. Il est spécialisé précisément dans la reprise de ces espaces de vie qui ont été habités par des personnes souffrant de ce syndrome.
Est-ce qu'on ne pourrait pas dire, Jean, que dans la mesure où ils ont souffert de manière terrible d'une perte, qu'ils compensent cela après dans une sorte de délire en gardant tout?
Ah, c'est une analyse
séduisante. Oui, c'est rassurant pour eux,
en fait. Ça peut être effectivement une tentative d'expliquer, de comprendre effectivement tout d'un coup cette espèce de bascule dans quelque chose de complètement irrationnel.
Philippe Bilger, un mot sur le syndrome de Diogène.
J'ai cherché à éclairer notre psychologue qui a bien voulu m'écouter avec compréhension, donc je n'ai plus rien à dire.
J'ai deux oreilles et une seule bouche.
Je ne connaissais pas le nom en fait de ce syndrome. C'est vrai que c'est effrayant. J'ai vu des reportages et ça n'a rien de drôle. Et tu le rappelais, et tu fais bien de le rappeler, que la psychiatrie est le parent pauvre de la médecine. C'est assez terrifiant parce que ça va...
De mal en pis,
mais c'est surtout un panel très large. Et quand on dit la psychiatrie, c'est beaucoup de champs, en fait.
Ce qui est terrible, sans dramatiser à outrance, c'est qu'il y a de moins en moins de moyens pour la psychiatrie, et la santé mentale ne s'arrange pas, bien au contraire. Elle a tendance à se dégrader pour plein de facteurs, ne serait-ce que l'augmentation de la population, déjà, et puis aussi le confinement, la misère qui est là, s'augmente, et on sait que la misère, c'est un facteur de dégradation de la santé mentale, donc c'est vrai qu'il y a du pain sur la planche pour la nouvelle assemblée.
J'ai une question rapide à te poser. Est-ce que tu penses, on perd tous des proches, on est tous faillibles, on a tous nos sensibilités, que ça peut avoir un lien génétique en fait?
Alors ça, c'est une question que se posent tous les savants, pas que sur le syndrome de Diogène, sur toutes ces les maladies mentales restent un mystère encore aujourd'hui. La schizophrénie, typiquement, les savants ne savent pas d'où ça vient. Et ils recherchent, est-ce que c'est un peu héréditaire? Est-ce que c'est peut-être... On sait que parfois c'est déclenché après la consommation de cannabis à outrance. Et aujourd'hui... Toutes choses égales par ailleurs, tout paramètre confondu, de plus en plus les savants abordent une explication multifactorielle, parce que très très souvent, on se rend compte que même la génétique, je suis d'une génération où on a appris que les gènes c'était gravé dans le marbre et ça ne bougeait plus jamais. Non, l'épigénétique a fait son apparition il n'y a pas très longtemps, où on se rend compte que l'environnement, le contexte, que la personne mange, comment elle dort, comment elle vit, tout ça, ça participe à l'expression ou à l'inhibition d'un même gène. Donc c'est de toute façon, une addition de facteurs qui explique ce genre de troubles.
Je vais faire, vous avez parlé des problèmes psychologiques, je vais faire un petit coup de pub. Il y aura le 7 juillet à 21h sur C8 la diffusion du concert du Psychodon à l'Olympia.
Très bien.
Dont Sud Radio était, et les Inter-Radio étaient partenaires. Vous avez reçu Didier Meyran, qu'on salue d'ailleurs. Moi, j'ai eu la chance que c'était enregistré. C'est un magnifique concert avec plein de vedettes. Yannick Noah, enfin, il y a vraiment plein de vedettes. Vraiment,
faut vraiment soutenir ce combat.
Et c'est diffusé le 7 juillet à 21h sur C8. C'est vraiment une très très belle initiative.
Plus le morceau est long, plus le concert dure en plus.
Absolument. On ne vous a pas demandé de monter sur scène, Philippe.
Non, on
n'a
pas demandé de monter sur scène.
Pour montrer ce que ça pouvait être.
Bah écoutez, peut-être l'année prochaine. Mais on fera un duo avec vous.
Mais pourquoi moi, on m'internerait.
Les vraies voix, 18h15 à 18h30, notre grand débat. La France risque-t-elle de devenir ingouvernable? Vous êtes 53,8% à dire oui. Tout de suite, c'est la fête de la musique. On va prendre la direction de Toulouse, où on va retrouver Yvan Cujus, qui est en concert ce soir. On va parler de ces musiciens professionnels et amateurs qui font chanter la France.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ah oui, musique, France Gall, sur une musique de Michel Berger. C'est un peu le Michel Berger de Sud Radio. Salut Yvan Cujus.
Salut les... Comment va toute l'équipe?
Très bien, on va se dire tu, je pense qu'il n'y a pas de problème, on se tutoie dans le loft. Alors on est en compagnie d'Yvan Cujus, monsieur Loft Musique, en direct de Toulouse. La fête de la musique, une fête née en 1981 et qui n'a connu qu'une exception, 2020, pour cause de pandémie, avec les restrictions sanitaires. Et une fête de la musique qui est devenue internationale, Yvan, c'est une sacrée belle histoire que cette fête de la musique.
Ouais, ça fait 40 ans effectivement qu'elle a été créée. Ça, c'est une jolie initiative française de Jack Lang, on le répète chaque année, avec surtout l'idée de favoriser, de donner aux gens l'envie de pratiquer la musique, parce que l'écouter c'est une chose, mais c'est surtout la pratiquer qui est intéressant, et comme ça quelque chose qui tente à décomplexer les gens, parce que ce soir-là, ben, tout le monde descend, en fait c'était au départ ça l'idée de la fête de la musique, tout le monde descend dans la rue pour jouer, qu'importe si c'est pas très harmonieux, si c'est pas très mélodique, si quelquefois c'est pas très inspiré, mais on partage, on pratique, on interprète, on crée, et c'est ça l'idée de la musique et de l'aspect populaire de la musique, c'est ça qui est intéressant.
Philippe Bilger.
Mais mon cher Yvan, la musique ne serait plus une fête si j'allais chanter dans la rue, ce serait une catastrophe. Mais parlez, non, Philippe, vous parlez de gens comme si tout le monde avait votre talent à tout point de vue.
C'est gentil, Philippe, mais par exemple, vous qui avez cette diction magnifique, cette oui. élocution très singulière et très subtile, il suffit d'aller lire un texte, un poème, Philippe Bilger, avec un guitariste ou un pianiste, et ça y est, on est dans
mais
la musique.
Il faudrait que je les trouve.
Les quoi, les textes,
les guitaristes.
Ouais, je peux vous en trouver un pour pas cher.
Il faudrait déjà y aller à Toulouse.
Ah bah oui.
Eh oui, ils sont tous là, les guitaristes.
Caroline Pilastre.
Oui, la fête de la musique a été créée pour rassembler et fédérer. Mais alors moi, je vais être un peu l'oiseau de mauvais augure, la voix discordante de Sud.
Pourtant, un oiseau, ça chante, hein.
Il va pleuvoir, mais c'est bon pour l'agriculture, hein, vu qu'il y a beaucoup de sécheresse en ce moment. Des gens comme toi qui ont du talent, il n'y en a pas tant que ça, malheureusement. Et moi, je vais te dire, souvent, je trouve que c'est une cacophonie monstre, la fête de la musique. Et je vais rentrer chez moi ce soir, comme j'ai un grand jardin face à mon appartement. Je vais tout baisser parce qu'ils me prennent la tête, trivialement parlant. Tu as beaucoup de gens qui se prennent pour Muse, U2 ou les Beatles et qui n'ont aucun talent. Moi, je vais te dire, j'ai pratiqué 12 ans de danse. Donc là-dessus, je m'en sors. Mais je suis nulle comme chanteuse. Je ne me verrai pas descendre avec mes casseroles et commencer à faire du bruit en remuant. Donc il y a un mélange des genres qui, moi, me dérange en imposant aux autres une manière de faire sous prétexte que c'est le 21 juin. Voilà.
Yvan. Oui, j'entends ça, mais je crois que ce qui est important, c'est encore une fois qu'on puisse permettre à des gens de quelquefois dépasser ces limites-là. Peut-être que effectivement, si tu allais voir un concert payant et que tu étais déçu, je comprendrais. Mais là, c'est une autre, toute autre intention. Et je crois qu'on manque justement de spontanéité par rapport à la musique. Vous savez quand même que les grandes voix, que encore en 2022, on initie au collège, la musique par la flûte à bec.
Oui.
Non,
oui.
On est quand même, c'était quand même un truc inimaginable.
Ah bon, on peut dire que c'est vraiment du pipeau, hein.
Mais c'est du pipeau. Mais comment vous voulez qu'on crée comme ça du désir chez des jeunes gens avec des flûtes à bec? Il faut absolument encourager les gens à pratiquer la musique, et ça veut dire que quand on prend cette décision-là, eh bien on s'expose à avoir des ratés, des trucs approximatifs, des trucs pas bien, mais est-ce que c'est ça l'important? Moi, je crois qu'il faut susciter le désir de pratiquer la musique chez les gens.
Et parfois, il y a de sacrées révélations.
Ah oui,
ah ben, il y a des gens surtout à
la flûte, bien sûr. Alors moi, j'aurais une question à te poser, mon cher Yvan, c'est que c'est vrai, la flûte à bec, moi j'ai joué le Tédéum à la flûte à bec quand j'étais gamin, on m'a fait jouer ça.
Véridique, quoi. C'est toi qui jouais le logo de l'Eurovision.
C'est moi, voilà, l'Eurovision.
Avant
voilà,
les
matchs,
on voit des 5 nations.
À la flûte avec, je pense que je saurais encore le jouer d'ailleurs. Mais alors, jusqu'à quel âge, Yvan, quelqu'un qui est nul en solfège, qui connaît rien, qui distingue pas une clé de fa d'une clé de sol, de rien du tout, jusqu'à quel âge on peut envisager de démarrer un instrument pour pouvoir un peu se faire plaisir?
Mais tu sais, Jean, quand tu parles de ça, c'est marrant, mais j'avais la chance d'être avec Thomas Dutronc hier et on parlait de ça par rapport à Django Reinhardt, qui quand même jouait de la guitare comme un virtuose sans connaître une seule note de musique.
Il manquait des doigts en plus, hein, je crois.
Qui n'avait que trois doigts à la main droite. Donc, si tu veux, la musique, c'est pas l'important, c'est pas d'apprendre la musique, c'est de la comprendre. On n'apprend pas la
la musique, on comprend la musique. Et on comprend la musique parce qu'on a la chance d'être dans des environnements qui favorisent ça, avec des gens mélomanes ou des gens qui écoutent. Et la musique, c'est un déclic, c'est une compréhension. Il ne faut pas bloquer sur la partie technique, se dire qu'il faut acquérir une technique, etc. Ce n'est pas ça l'important. L'important, c'est le feeling, c'est la compréhension. C'est ce qu'il y a dans le ventre, ce n'est pas ce qu'il y a dans la tête.
Alors, Jean... je vais acheter une guitare. Alors.
Oui. Justement, Yvan, il y a plein de musiciens amateurs pour la fête de la musique, mais toi, tu es ce soir en concert à Toulouse avec le Toulouse Contour, avec nos amis Majid Cherfi et Art Mengo.
Art Mengo, effectivement, et Majid, le chanteur et écrivain que vous connaissez, emblématique de Zebda notamment. Et là, on est dans les loges, là, ils sont pas loin et on se prépare, on joue dans la cour du conseil départemental de Toulouse. Et on va faire notre concert en ce jour, c'est symbolique. Mais vous savez, finalement, les musiciens, c'est pas forcément les musiciens professionnels qui jouent le soir de la fête de la musique, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. C'est plutôt quelque chose comme ça de spontané. Mais quelquefois on joue nous aussi dans ce cadre-là et c'est super, super agréable.
Mon cher Yvan, c'est vrai que pour la tournée d'été du Toulouse Contour, il y aura une chorégraphie de Philippe Biligère avec toi, la Carioca version Sud Radio.
Avec Jean Dorido à la guitare. Donc, ce soir.
Yvan, un jour, quand vous serez invité à l'Elysée, vous serez prêt à vous mettre torse nu?
Non, ça c'est rare. Et puis là, je demanderai tellement cher que ça va me persuader.
Et c'est vrai, il y a beaucoup de musiciens amateurs qui viennent aussi. Ça arrive des découvertes. D'ailleurs, ce sera une spéciale fête de la musique ce soir dans le loft de Sud Radio avec toi, mon cher Yvan.
Ouais, c'est ça. On va avoir tous les jolis moments live qu'on a eu avec plein de gens qui viennent régulièrement comme ça et justement qui jouent et qui partagent avec des gens qu'ils connaissent pas forcément autour de la table. Mais oui, les découvertes, bien sûr, il y en a. Les gens regardent beaucoup les émissions comme The Voice, etc., qui permettent les découvertes, mais avec toujours quand même en fond plus le souci de l'émission de télé qui va faire de l'audience que la réalité du talent artistique. Donc, on est un peu habitué à ça, hein, très formaté. Mais il faut aller écouter, il faut faire des efforts aussi pour découvrir des choses. Il faut aller se donner la volonté d'aller sur Internet, par exemple, ou dans des concerts et d'écouter des choses nouvelles, quoi.
Merci beaucoup, mon cher Yvan. Et j'attends la chorégraphie de la Carioca avec Philippe Biligère. Je crois que ça va être vraiment génial. Jean Dorido est d'accord.
Il y a un concept.
On attend ça avec impatience. On t'embrasse. Tu fais également la bise de notre part à Majid et à Michel Art Mengo. Et bon concert, les amis, ce soir.
Merci beaucoup.
Tout de suite, notre grand débat. La France risque-t-elle de devenir ingouvernable? Vous êtes 53,4% à dire oui. C'est très partagé. On en débat avec Didier Moss, spécialiste du droit constitutionnel. Vous voulez réagir? Le 0826-300-300.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Biligère, Caroline Pilastré, Jean Dorido. Consultation des chefs de parti des potentiels groupes parlementaires élus dimanche à l'Elysée en ce moment même. Entretien d'une heure environ avec Christian Jacob, Olivier Faure, François Bayrou, Stanislas Guérini, Marine Le Pen. Et j'ai un trou de mémoire sur le prénom de Roussel. Fabien Roussel est demain avec Adrien Quatennens et Mathilde Panot et Julien Bayou d'Europe Écologie Les Verts. Évidemment, c'est LFI pour Quatennens et Panot.
À mon avis, il ne tombera pas dans...
Elle vaut les
calembours de mon ami Philippe David. Des consultations probablement faites
pour prendre la température en essayant de mettre de l'huile dans les rouages. Pour l'Élysée, il s'agit, je cite, de dialoguer pour l'intérêt supérieur de la nation, et François Bayrou, et voilà pour la température, et François Bayrou, en sortant de l'Élysée, a appelé, je le cite, à s'approcher le plus possible de l'unité nationale, voilà pour l'huile dans les rouages. Le but, arriver à dégager une majorité ponctuelle ou fluctuante pour que la France ne soit pas ingouvernable. D'où notre grand débat, la France risque-t-elle de devenir ingouvernable? Et vous êtes 53,4% à dire oui sur Twitter. Avec nous Didier Moss, spécialiste en droit constitutionnel. Didier Moss, bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue sur Sud Radio. La France est-elle de retour à la 4e République malgré le scrutin majoritaire uninominal à deux tours?
Écoutez, il y a un petit côté 4ème République. Dans la constitution de la 4ème République, il y avait ce qu'on appelait les consultations d'usage. Le président de la République, lorsqu'il y avait une crise ministérielle ou après des élections législatives, consultait les responsables parlementaires pour essayer de voir avec qui on pourrait faire une majorité. Et c'est la première fois sur la 5ème République qu'au lendemain d'élections législatives, il y a un phénomène de ce type. Donc on a un petit côté retour à la 4ème République, oui. C'est d'ailleurs pas désagréable pour certains.
Philippe Bilger.
Cher monsieur, est-ce que d'abord je vois que François Bayrou a des espérances, penser que le pays va s'approcher de l'unité nationale, c'est vraiment quelqu'un qui a de l'optimisme à revendre. Mais plus sérieusement, est-ce que vous ne trouvez pas que cette question qu'on entend depuis dimanche soir est un peu absurde? Comme si en réalité un pays pouvait devenir ingouvernable. Il me semble, mais le spécialiste que vous êtes va peut-être me démentir, que, au contraire, le résultat de ce second tour des élections législatives va peut-être permettre d'introduire dans la sphère présidentielle majestueuse, autoritaire, impérieuse, un petit peu de l'esprit du Parlement et de la vie parlementaire. Et il me semble qu'on n'aura pas les risques de la 4ème République parce que le pouvoir demeurera toujours largement à l'Élysée. Est-ce que vous pouvez partager ce sentiment ou pas ?
Didier Mauss.
Écoutez, je suis très hésitant sur la possibilité de le partager. Je comprends parfaitement ce que vous expliquez. On est encore aujourd'hui dans l'incertitude pour savoir où va être le point d'équilibre entre le pouvoir du président qui a été réélu, il n'y a aucun doute là-dessus, personne ne le conteste, et cette Assemblée nationale fractionnée en trois grands groupes que nous avons depuis dimanche soir. Alors, les références historiques, on peut toujours en trouver. Il y a eu en 1951 une Assemblée nationale qui était très difficile à gouverner parce qu'il y avait d'un côté un bloc communiste, de l'autre côté un bloc du RPF qui empêchait en réalité la formation d'une majorité. Aujourd'hui, on a un bloc de la France insoumise, un bloc du Rassemblement national qui, d'une certaine manière, sont des forces politiques difficilement intégrables, en tout cas en l'état, dans un contrat majoritaire. Alors voilà, donc on trouvera une solution, c'est-à-dire je ne suis pas inquiet, la Constitution offre un certain nombre de possibilités, mais nous sommes dans une situation que nous n'avons jamais connue, il faut le dire clairement, depuis 1959, et donc il va falloir un petit peu improviser, un petit peu être réaliste, un petit peu être sérieux, et peut-être aller vers cette culture du consensus, cette culture du contrat qui est si étrangère à notre logique actuelle.
Caroline Pilastre.
Privé de majorité absolue, Ensemble va devoir trouver des majorités d'idées pour légiférer à l'Assemblée nationale. Sinon, cela sera impossible et le pays sera bloqué. Je vous donne un exemple. Si la question de l'immigration et de la sécurité est traitée, forcément, la Macronie va se tourner vers la droite et le RN. Certainement pas vers NUPES, vu leur idéologie sur la question. Il y a une petite musique qui court depuis les résultats dimanche soir de la fameuse dissolution de l'Assemblée. Pensez-vous que si M. Macron n'arrive pas à passer ses réformes, surtout la réforme des retraites, il devra dissoudre l'Assemblée d'ici un an ?
Écoutez, l'avenir n'est inscrit nulle part. Hein. Il est évident qu'il y a la dissolution qui pèsera à un moment ou à un autre sur le fonctionnement de l'Assemblée. Est-ce que la réforme des retraites va être mise à l'ordre du jour ? C'est pas du tout certain. Il est très possible qu'on la laisse de côté parce qu'actuellement, il n'y a pas de majorité pour voter la retraite à 65 ans. Et je crois que ça serait un peu dangereux de la part du président de se lancer dans une grande crise sociale disons au mois de septembre ou au mois d'octobre. Donc la dissolution est possible, mais j'ajoute que si la dissolution juridiquement ne pose pas de problème à ce stade, elle doit s'inscrire dans un contexte politique précis. On ne peut dissoudre que si on arrive à faire comprendre aux Français que l'Assemblée nationale est inefficace, qu'elle ne peut plus soutenir un gouvernement, qu'elle n'arrive plus à voter des lois. Et donc il faut dramatiser la situation, et ce n'est pas aujourd'hui, 21 juin, qu'on va dramatiser.
Jean Dorido.
Oui, non, alors écoutez, d'abord, oui, un constat, c'est vrai que j'ai vraiment cherché à comprendre cette Assemblée nationale, parce que c'est vraiment très inédit. Traditionnellement, dans la foulée de l'élection présidentielle, l'électeur vote pour soutenir le président pour lequel
Ça avait toujours été le cas depuis 2002, le quinquennat et les élections qui suivent.
Psychologiquement, ça se comprend, parce qu'il y a une espèce d'élan, il y a une espèce d'influence sociale comme ça, qui fait que... Et je finis par me dire que les Français, ils aiment l'alternance, les Français. Ils ont apprécié pendant longtemps, il y avait un coup le RPR-UDF, un autre coup le PS, et ça changeait, il y a même eu des cohabitations. Et puis c'est vrai que le président Macron, avec son en même temps, et en même temps de droite et en même temps de gauche, ça a privé les Français de cette possibilité d'alternance. Le président est repassé sans faire offense à Marine Le Pen dans un fauteuil, parce que ça a été annoncé pendant 5 ans, pendant son premier mandat, ça a été annoncé pendant 5 ans qu'il serait face à Marine Le Pen au second tour et qu'il l'emporterait à nouveau. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce souci d'alternance qui a vraiment inspiré le vote des Français. Et par conséquent, Caroline posait la question tout à l'heure de l'avenir. Je sais bien que vous n'êtes pas devin monsieur. Toutefois, d'après vous, vous connaissez les présidents qui ont précédé M. Macron, combien de temps est-ce qu'il peut se laisser avant de peut-être envisager d'autres solutions que ces espèces de majorités stéréo comme ça, un coup alliance à droite, un coup alliance à gauche? Combien de temps, et puis sur quel genre de sujet? Est-ce que vous avez une idée de ce qu'il pourrait être le premier voilà.
Il y aura, des étapes successives. Il va y avoir une première étape dans 15 jours, 3 semaines, au mois de juillet.
5 juillet, oui.
Est-ce que le gouvernement va faire une déclaration de politique générale? Sûrement. J'ose pas dire Madame Borne, parce qu'on ne sait pas qui sera le Premier ministre à ce moment-là. Donc je dis le gouvernement ou le Premier ministre fera une déclaration de politique générale. En l'état actuel des choses, ça serait extrêmement dangereux d'engager la responsabilité du gouvernement. Il n'y a pas de majorité positive pour le gouvernement. Mais est-ce qu'il y aura une majorité négative? Les amis de M. Mélenchon ont dit nous allons déposer immédiatement une motion de censure. Il faut quand même attendre un petit peu d'avoir quelque chose à mettre dedans. C'est-à-dire, on ne va pas la faire avant même que le gouvernement ait un tout petit peu agi. Cette motion de censure, par qui sera-t-elle votée? Je ne vois aucune difficulté à ce qu'elle soit votée par les 90 députés du Rassemblement national. Il suffit qu'elle soit bien rédigée. Et la clé de l'opération, elle sera chez les députés des Républicains, comme on le dit depuis dimanche, c'est eux qui détiennent la clé de l'affaire. Alors, ils ne sont pas dans la majorité, ils ne seront pas dans la majorité dans les semaines qui viennent, mais est-ce qu'ils seront véritablement dans l'opposition?
En tout cas, pardon, M. Christian Jacob l'a encore certifié ce matin.
Oui, mais vous savez, il y a plusieurs façons
de voir par la suite. Ils ont vu qu'ils étaient pour l'intérêt du pays, mais qu'ils faisaient partie d'une vraie opposition.
On a vu ce que ça donnait pendant 5 ans, son opposition.
Oui, bien sûr,
L'intérêt du pays, on a du mal quelquefois à savoir ce que c'est, parce que M. Mélenchon parle aussi de l'intérêt du pays, Mme Le Pen parle de l'intérêt du pays, Mme Borne parle de l'intérêt du pays, M. Jacob parle de l'intérêt du pays, et moi aussi je vais vous parler de l'intérêt du pays. L'intérêt du pays, c'est que le pays soit gouverné. Et pour qu'il soit gouverné, il faut qu'il y ait quelque part un gouvernement soutenu par une majorité. Il n'y a pas de mystère, on ne va pas fonctionner à la petite semaine indéfiniment, ça peut tenir quelque temps. Alors, mathématiquement, l'arithmétique parlementaire retrouve aujourd'hui son importance. Une motion de censure est susceptible d'être votée si les députés républicains mêlent leur voix à leurs voisins de droite et de gauche avec lesquels ils n'ont strictement rien en commun. Puis il y aura une deuxième étape à l'automne, notamment avec la préparation du budget. Mais alors là, on est sauvé parce qu'il y a l'article 49 alinéa 3 qu'on peut utiliser sur le budget. On peut difficilement l'utiliser sur les autres textes, une fois par session. Mais on pourra. Mais encore faut-il être sûr que s'il y a une motion de censure déposée à propos du 49 alinéa 3, elle ne sera pas votée. C'est-à-dire, on est dans une situation politique, je parlais d'arithmétique, le rapport de force politique est primordial, il prime les raisonnements institutionnels aujourd'hui. Est-ce que les uns et les autres sont prêts à mélanger leurs voix pour rendre la vie impossible à M. Macron et à rendre le gouvernement effectivement impossible?
Et une question, il y a beaucoup d'arrière-pensées politiques qui vont jouer derrière, c'est plusieurs politologues qui le disent, Dominique Reynier l'a dit je crois hier ou avant-hier, ça va être probablement NUPES, l'opposition systématique et très dure, et Marine Le Pen qui dira peut-être au RN, il faut qu'on se dédiabolise définitivement, donc soyons une opposition soft et constructive pour montrer qu'on n'est pas des excités.
Écoutez, la vie politique, moi je la fréquente depuis pas mal de décennies, le lendemain d'une élection, on pense à la suivante, systématiquement. Mais c'est assez logique d'ailleurs, le passé c'est le passé, et on tient compte des résultats, on est content, on n'est pas content, on est hésitant, et puis on se dit on va essayer de faire mieux la fois d'après. Donc que les résultats inattendus, originaux, tout ce qu'on veut de dimanche, donnent des idées à un certain nombre de gens sur comment ça va se passer, moi j'ai entendu, j'en sais rien, j'ai entendu des forces politiques depuis deux jours dire « mezzo voce », hein, ils vont pas le clamer sur oui. Et toi, bon, on est déjà en train de préparer les candidatures en cas de dissolution rapide. Bon,
effectivement.
Voilà. Mais ça me paraît, j'allais dire, logique. Hein, je le dis franchement. Hein, je crois qu'il ne faut pas reprocher aux gens d'essayer de tirer profit d'une situation qui n'est pas obligatoirement la bonne pour eux.
Les vraies voix, 18h42, notre grand débat. La France risque-t-elle de devenir ingouvernable, pardon. Vous êtes 53,3% à dire oui. On se retrouve tout de suite avec Didier Mauss, spécialiste du droit constitutionnel.
Les vraies voix Sud Radio, 17h20, Philippe David.
Retour des vraies voix avec Philippe Bilger, Caroline Pilastre, Jean Dorido. Le grand débat, la France risque-t-elle de devenir ingouvernable? Vous êtes 53,8% à dire oui avec nous. Didier Mauss, spécialiste en droit constitutionnel. Philippe Bilger veut réagir.
Je voulais vous poser une nouvelle question. D'aucuns qui représentent des analystes, paraît-il avertis de la vie politique, disent que, contrairement à ce qu'on peut espérer, le fait d'avoir une représentation à l'Assemblée nationale plus exacte du peuple français ne garantira pas le fait que dans la société elle-même, il y aura moins de violence. Et que, au fond, selon eux, l'agitation dans la rue continuera à chaque déception parlementaire. Qu'en pensez-vous, cher monsieur ?
Mais écoutez, je veux dire, le problème, c'est que la déception, elle ne sera pas toujours du même côté. Et donc, on va avoir une adjonction, une accumulation des déceptions. On risque d'avoir des déceptions à gauche, on risque d'avoir des déceptions à droite, on risque d'avoir des déceptions au centre. Et c'est vrai que l'Assemblée d'aujourd'hui est politiquement plus représentative de ce qu'est l'opinion publique française, mais c'est une Assemblée où les forces non gouvernementales, entre guillemets, parce que les intéressés refuserait l'expression, ces forces non gouvernementales sont importantes et il va falloir obliger les autres, celles qui sont les modérés, comme on dit, les forces ou les partis de gouvernement, à faire quelque chose ensemble. C'est la grande différence par rapport aux exemples que vous citiez au début de l'émission. Lorsqu'il y avait des alternances gauche-droite, personne ne mettait en cause la possibilité que le Parti socialiste ou l'alliance RPR-UDF soient en capacité de gouverner. Quand il y a eu des cohabitations, je me souviens très bien de la première en 1986, personne n'avait mis en cause la possibilité pour cette alliance RPR-UDF de l'époque de gouverner. Bon, les uns ou les autres n'étaient pas contents parce qu'on les avait renvoyés à leurs chères études, mais il n'y avait pas de doute sur le fait qu'ils étaient grosso modo des gens raisonnables. Hein. Je prends cette expression. Bon, aujourd'hui, qui est-ce qui peut dire que les groupes qui sont sur les côtés de l'hémicycle sont des groupes raisonnables? Alors évidemment, si vous leur posez la question, ils vous diront qu'ils le sont, mais aux yeux de beaucoup, ils ne le sont pas. Alors, c'est très très difficile quand on entre dans un scénario comme celui qui est celui d'aujourd'hui, de voir comment les choses vont évoluer. On va reposer par exemple le problème de la représentation proportionnelle. Est-ce que la représentation proportionnelle serait meilleure que ce que l'on a aujourd'hui? Très franchement, je n'en sais rien et je ne sais même pas quel est mon avis là-dessus aujourd'hui.
Caroline Pilastre, un mot court, pareil pour Jean Dorido et la conclusion à Didier Mauss.
Dimanche soir, la sanction est tombée pour la Macronie. Je sais que vous n'êtes pas devin, monsieur, et que c'est compliqué de pronostiquer actuellement. Mais à votre avis, avec le nouveau remaniement, monsieur Macron a-t-il des chances de pouvoir s'en sortir un peu politiquement vis-à-vis de l'opinion. S'il nomme une autre ministre, un autre ministre que Madame Borne, qui est compétente en tant que techno, mais à qui on dit régulièrement qu'elle ne comprend pas vraiment le terrain, qu'elle n'est pas assez généreuse et qu'il faut une politique à ce poste qui a les reins solides. Est-ce que vous pensez qu'il peut reprendre du poil de la bête en choisissant un autre gouvernement que celui-là ?
Écoutez, on a vu les codes de popularité des présidents de la République varier beaucoup à toute vitesse. Bon, il ne faut pas parler d'un remaniement du gouvernement. On va avoir un nouveau gouvernement parce qu'il va falloir que le gouvernement démissionne. La démission de Mme Borne a été refusée ce matin, mais il faudra l'accepter la semaine prochaine parce qu'il faut que les ministres votent pour le président de l'Assemblée nationale. Il y a quand même là une quinzaine de voix à récupérer. Donc il faut qu'il soit dans l'hémicycle du Palais Bourbon et non pas dans les palais ministériels. Bon, il va falloir faire quelque chose de complètement nouveau. Et si vous étiez en Angleterre, il y aurait des bookmakers pour prendre des paris sur qui sera le prochain Premier ministre. Je doute que ça soit Madame Borne, mais vous savez, on peut aussi se dire, on la garde en tout cas quelques temps et on verra
d'ici
3 mois, 6 mois, 9 mois. Vraiment, on est dans une incertitude compliquée et il faut tenir compte de la psychologie des gens, et notamment de la psychologie de M. Macron, qui n'est pas extraordinairement simple.
Un mot très court, Jean-Doris.
Un mot très court, je souhaite que ce scrutin quand même qui montre une Assemblée nationale beaucoup plus représentative de la France encourage les jeunes à voter. Il y a encore une forte abstention, alors qu'il y a plein de députés qui sont passés à quelques voix d'écart. Donc c'est
le record, c'est 3 voix pour un siège dans la Haute-Garonne.
Donc c'est un peu comme au Scrabble avec le mot compte triple. Là, vous avez tellement d'abstention que la voix compte triple ou quadruple. Donc les jeunes allaient voter de plus en plus.
Beau message de conclusion de Jean Dorido. Merci beaucoup Didier Mauss, spécialiste en droit constitutionnel. Verdict sur Twitter. La France risque-t-elle de devenir ingouvernable ? Vous êtes 54% à dire oui.
Vraie Voix Sud Radio.
Et on retrouve avec grand plaisir notre ami Frédéric Brindel.
Oh, je ne sais pas, grand plaisir.
Après cette chanson, toujours enthousiaste.
Merci. Et je reste dans ce domaine, chers amis, celui de la musique. C'est la fête de la musique et vous avez certainement évoqué déjà tout à l'heure la question de ces artistes de rue, amateurs.
Oui.
Eh bien, nous en avons un avec nous. Il s'appelle Joël Dahl, quelqu'un qui a la faim. Ouais.
Joli.
Bien sûr.
Il va chanter toute la soirée. Bonsoir Joël Dahl.
Bonsoir.
Bonsoir Frédéric. Vous m'entendez bien ?
Oui, parfait.
Il vient d'Argenteuil, non ?
Je suis dans la rue là.
Oui, vous êtes dans la rue. J'imagine que vous n'êtes pas très loin du 12 rue de Seine. Moi, je vais vous dire, je l'ai croisé il y a quelques années, Joël Dahl, et puis bon, son nom m'est revenu. Et j'avais chanté avec lui, on était à peu près, je ne sais pas, 200 autour de lui, chanter les chansons. Comment vous fonctionnez, Joël ? Vous êtes au 12 rue de Seine, dans le 6e arrondissement. C'est quoi le principe ?
Alors, le principe, c'est de chanter. Je chante, certes, mais le but, c'est de faire chanter tout le monde. Donc, pour cela, je remets à chacun... S'ils sont plus de 300, ça n'ira pas, mais j'ai 300 livrets de 100 chansons qui sont remis systématiquement à ceux qui viennent. Donc on constitue une chorale spontanée.
C'est sympa.
Je lance des bandes-sons, il n'y a pas de musicien à côté de moi. J'ai des bandes-sons sur une tablette et j'envoie la musique avec un micro et je fais chanter tout le monde.
Voilà, c'est bien. Je comprends parce que moi j'avais vu ça un petit peu de loin et comme, bon, vous le savez, je connais bien les paroles des chansons françaises. Je l'avais accompagné, mais je me suis dit tout le monde connaît les chansons. Mais non, en fait, il avait anticipé. Alors, vous commencez à quelle heure ce soir ?
On commence normalement à 20h précise.
Vous faites des petites répétitions ?
Alors, c'est difficile parce qu'on est dans la rue, il y a encore des voitures qui passent parce que là, je dévie un tout petit peu la circulation de façon à ce qu'on soit tranquille à partir de 20h.
Ah oui.
Et là, pour l'instant, les voitures passent.
Bon, vous nous lancez une petite bande son et puis vous chantez, puis on vous accompagne. Allez-y.
Si ça marche, si vous entendez, je vous mets justement Elisa.
Allez, un petit premier extrait. Allez.
Parfait.
Ouais, c'est celle que j'avais chantée d'ailleurs, Elisa.
Alors, j'ai ma tablette devant moi.
Ouais.
J'ai allumé une sono parce que j'ai 4 petites sonos.
Ouais. Et c'est parti, avec le téléphone en main, on vous écoute sur Sud Radio. Allez-y, cher Joël Dahl, musique.
Voilà, c'est parti, on va faire un réglage.
Immeuble bien, Jacques Brindel. C'est la répétition, on sent le grand professionnel.
Écoutez, c'est parti.
Elisa, saute-moi au cou, Elisa. Elisa, Elisa, cherche-moi des poux. Enfonce bien tes ongles et tes doigts délicats dans la jongle de mes cheveux, Lisa.
Qu'est-ce que ça? Mais c'est exactement comme ça dans la rue, Joël. C'est magnifique. Joël, vous nous en lancez une autre. Je sais que vous aimez bien Piaf. Vous avez vu comme ça marche, hein, tout de suite là en studio. Alors, tout le monde est parti.
Il y a des drôles d'oiseaux dans le studio.
Allez, vous nous lancez. Ouais, là, d'accord.
En plus, elle est pas mal. Elle est pas mal.
Allez, la petite bande son, Joël, c'est parti. Du Piaf, on vous écoute.
Attendez, voilà, parce que vous voyez...
C'est la joie du direct.
Bah, c'est
la joie du direct.
On rappelle que nous sommes en direct depuis Paris 6e arrondissement. Que
12 rue de Seine.
Hein? Joël Dalle va chanter toute la soirée.
Alors, plutôt mon manège à moi, parce que c'est plus...
Ah bah,
c'est
très bien. Allez-y, vous me faites tourner la tête.
Attendez une seconde. Oui. Voyez.
Donc on le rappelle.
Voilà, c'est parti.
C'est parti.
Je vous mets la musique.
Allez, on y va.
Alors, je vous lance.
Allez, on est parti.
Attendez, c'est bon?
Oui.
Un peu plus fort.
C'est moyen, là.
On y va, attention.
Tu me fais tourner la tête.
Ouais, super.
Mon manège à moi, c'est toi.
Encore.
Je suis toujours à la fête.
Ouais, super.
Quand tu me prends dans tes bras, je fais le tour du monde. Que ça tournerait pas mieux que ça. La terre n'est pas assez ronde. Mon manège à moi, c'est toi.
Je demande, cher Joël Dalle, je demande au patron de ces lieux, Philippe David, si on a la chance de pouvoir en faire une dernière.
Allez,
pour
on
Joël.
En fait une dernière pour le plaisir, rapido. Ouais,
ah, pour le plaisir, à Valéonard.
Non, pour le plaisir, alors. Delpech, on fait Delpech? Ah ouais, pour un flirt.
Ah, sympa.
Pour un flirt.
Alors, attendez, je sais à quel numéro aller.
Ah, oui, parce que donc il appuie sur le numéro, la tablette.
Ah ben, c'est bien.
Ce qui est bien, c'est qu'il y a des chœurs en plus. La la la.
Voilà.
Attends, on écoute.
Allez-y, déchaînez-vous.
La 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 la
pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Pour un flirt,
Philippe Bilger,
voilà. Avec toi,
Caroline Pilas,
je serai prêt à tout. Pour un simple rendez-vous
chez Jean Dorido.
Pour un flirt avec toi.
Allez.
Pour un petit tour, un petit jour entre tes bras.
Et avec Joël Dalle, que je vous demande
d'applaudir.
C'est bon comme ça, tu crois.
Et bien, on peut dire que les vraies voix connaissent la chanson. Merci beaucoup, Joël Dalle.
On était dans les répétitions de Joël. Il est déjà dans la rue. Vous allez le voir ce soir à partir de 20h. Ça commence 12 rue de Seine.
Et j'interdis à qui que ce soit de dire que Joël ne vaut que dalle parce qu'il est vraiment très bon.
Mais voilà, et la boucle est bouclée.
On n'aime pas la dalle.
Absolument. Merci beaucoup, Joël Dalle. Ça se passe à partir de 20h au 12 rue de Seine à Paris. Merci mon cher Frédéric Brindel. Tout de suite, nos vraies voix du jour. On aura notamment Davide, qui est d'origine italienne, de Marseille. Restez bien avec nous sur Sud Radio.
Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David.
Ils sont restés avec nous, Caroline Pilastre, consultante dans le domaine du handicap visuel, et Frédéric Brindel, que vous allez retrouver après pour les vraies voix de l'emploi. Et nos deux vraies voix du soir, direction le Tarn-et-Garonne. Bonsoir Sandrine.
Bonsoir Sandrine.
Bonsoir à vous, on salue le Tarn-et-Garonne. Vous êtes où dans le Tarn-et-Garonne?
Ah, moi, je suis de Castelsarrasin.
Ah, d'accord, ok. Donc, l'ouest du département, en allant vers le Lot-et-Garonne.
À combien de kilomètres d'Agen?
Oh, Agen, c'est pas très loin. C'est une Castelsarrasin à Agen, il y a une quarantaine de kilomètres,
merci,
c'est ça?
Monsieur.
Voilà.
Absolument.
Près, voilà.
Par l'autoroute A62, j'ai parcouru tellement de fois.
C'est juste que Philippe David est imbattable là-dessus, même s'il ne l'a jamais fait en vélo.
Et alors, je vous le donne, Toulouse-Perpignan-Nord, 205 kilomètres. Mon cher Frédéric Brindel, bonsoir Mohamed de Perpignan.
Bonsoir Mohamed.
Bonsoir à vous,
Mohamed.
À vos invités, aux auditeurs.
Pour le kilométrage, Perpignan-Nord-Toulouse, c'est bien 205, il me semble. Hein.
Ouais, c'est à peu près de 200 km, ouais.
C'est ça. Alors, galanterie oblige, je voulais parler des résultats des législatives, de ce qui se passe. Tiens, est-ce qu'on va avoir un pays ingouvernable, hein? C'était notre second débat. Et puis, nos nouveaux députés, chauffeurs-livreurs, femmes de ménage, ouvriers agricoles, est-ce que c'est une chance pour le débat politique? Allez, galanterie oblige, on commence. Qu'est-ce que vous en pensez, Sandrine?
Alors, de toute façon, je pense qu'ils ont été élus par, comme on dit, le peuple. Enfin, voilà, c'est ça, c'est important. Les législatives, longtemps, on a un peu boudé les législatives, je ne sais pas. On a l'impression que certains découvrent. Ah, qu'est-ce que c'est les législatives? Ah bon, ben c'est ça. Ah, tiens, ah ben d'accord, ok, bon. Voilà, alors, bon, effectivement, il y a, je pense qu'à un moment donné, voilà, il faut... Je pense qu'il faut une politique. J'espère et je le souhaite qu'ils s'entendent. Alors c'est vrai, effectivement, il y a les extrêmes d'un côté. Alors on dit les extrêmes, mais bon, peut-être que certains auront cette capacité à être peut-être un peu plus social, ou ils seront obligés d'un moment donné de se dire bon ben ok, peut-être oui, parce qu'il faut avancer, parce que bon, on parle de la France, du pays, mais nous sommes aussi en Europe. Et alors, bon, par mon métier, nous, l'Europe, on le connaît depuis très longtemps, depuis 80 ans.
Vous êtes agricultrice, c'est ça?
Et voilà, c'est ça. Donc, nous, on sait ce que c'est. Quand on nous dit freiner, il faut freiner. Mais quand on nous dit, ah, oh, ben là, vous pouvez plus freiner, vous pouvez y aller. OK. Et là, moi, je suis très inquiète un peu, bon, par rapport à l'énergie. Alors, c'est vrai, d'un côté, il y aura un côté gauche, enfin, plutôt, on va dire, NUPS, enfin, toute la bande. Et déjà, ils ne sont pas tout à fait d'accord au niveau des énergies. Après, c'est pareil pour le Front National, enfin, pas le Front, c'est le RN.
Le Rassemblement National, oui.
Le Rassemblement National, excusez-moi, j'ai toujours du mal à le dire. Puis après, bon, il y a effectivement la partie donc Macronie et le LR, qu'il faut dire que ben, bravo pour eux, qui continuent toujours à leur position. J'espère qu'ils vont rester sur leur position. Voilà.
Et vous espérez qu'on arrive à avoir un modus vivendi pour arriver à travailler à ce que le pays ne soit pas ingouvernable.
Voilà.
C'est bien.
Alors,
ça, Sandrine. On va donner la parole à Mohamed et faire tourner, faire s'exprimer les vraies voix. Mohamed, vous pensez que les gens peuvent s'entendre, ce qu'on dit en général, ce qu'on arrive à faire entre personnes intelligentes et éduquées?
Ben écoutez, moi je me félicite de voir une femme de ménage qui arrive à l'Assemblée nationale.
Il y en a même deux, on l'a dit. Il y en a
voilà,
deux.
C'est la démocratie. Écoutez, moi, dans mon département, j'ai 4 députés NR.
RN.
Alors je suis loin de ce... J'ai pas voté pour eux, mais c'est la démocratie. En plus, c'est 4 femmes. Je dis voilà, voyons ce qu'elles vont faire. Dans mon département, l'agglo... elle est en majorité pour Alliot.
Alliot,
il est maire de la plus grande ville du département. Voilà. Et je crois qu'ils ont tous les pouvoirs. Et pourquoi pas, laissons faire. Et en même temps, quand je vois, si on nous parle de cette femme de ménage, je crois que c'est blessant de dire le CM2 arrive à l'Assemblée nationale.
Ah non, personne n'a dit ça. C'est elle qui a dit mon niveau d'études, c'est CM2. Personne
oui,
ne
oui,
l'a
oui,
accusé,
oui.
De dit elle est le niveau. Non, c'est elle qui l'a dit.
Oui,
je crois qu'elle a dit.
Juste.
Alors, j'ai pas la phrase in extenso, mais je crois que c'est j'ai arrêté l'école au CM2 ou j'ai le niveau CM2. Quelque chose
oui, mais juste,
comme ça.
Pour vous rappeler, monsieur, Bérégovoy, il avait un CAP.
De tourneur-fraiseur ou d'ajusteur, oui, absolument.
Voilà. Et il est devenu Premier ministre il y a quelques décennies. Le certificat d'études et du CM2, on avait des instituteurs et des institutrices, bon voilà, qui formaient très bien nos enfants. Le BEPC a servi à faire des professeurs d'excellente qualité, et je pense qu'une femme de ménage et une personne de CM2 peuvent très
Alors,
bien. Et autre chose, juste
oui.
Une minute, s'il vous plaît.
Bien sûr.
Et tous ces gens qui sont manuels, d'ailleurs, ils ont une grande intelligence, parce que quand vous avez vous faites une maison, un immeuble, vous travaillez avec des plans d'architectes, donc vous êtes obligé de les comprendre. Quand vous faites un circuit hydraulique, vous avez des fiches techniques ou vous êtes obligé comme ajusteur de travailler au micron. Donc je veux dire, ils ont
ah oui.
L'intelligence manuelle et l'intelligence de l'esprit. Et je trouve que c'est formidable qu'on ait une assemblée comme ça. Alors que Macron, tout ça lui passe au-dessus de la jambe et je crois
alors,
que c'est une bonne chose.
Mohamed, je vous êtes assez sur la même ligne que Sandrine. Je vais donner la parole à nos deux vraies voix. Moi, je me rappelle quand même d'un président américain qui s'appelait Ronald Reagan. En général, les présidents américains ont fait Harvard, Yale, Stanford. Lui, il n'avait aucun diplôme. Il avait arrêté à l'école à 11 ou 12 ans. Il était un acteur de série B et c'était un homme. Moi, je l'ai vu parler à la télé américaine à l'époque. Il avait un charisme. Alors, c'est sûr qu'il savait faire face à une caméra en tant qu'ancien acteur de Hollywood, mais il a été un des plus grands présidents américains en ayant zéro diplôme. Qu'est-ce que vous voulez répondre à Sandrine du Tarn-et-Garonne et à Mohamed de Perpignan, ma chère Caroline Pilastre et mon cher Frédéric Brindel?
Eh bien, je rejoins nos auditeurs. Je vais m'auto-plagier.
Les auditeurs de Sud Radio sont toujours très bons.
C'est vrai, ils font des super analyses. Les diplômes ne font pas l'intelligence de l'homme. Je vous l'ai dit, je m'auto-plagie. Absolument. Ça ne veut rien dire. Si on va dans le sens de la collectivité, du bon sens... C'est une bonne chose que ces gens aient été élus. De toute manière, ils ont été élus démocratiquement, donc c'est sain le renouvellement de notre vie politique. Moi, là où ça pourrait me poser un problème, c'est si ces personnes restaient uniquement sur la symbolique. Maintenant, ils sont députés, ils doivent travailler pour le bien de nous tous, même si comme chacun, ils ont leur sensibilité. Et justement, leur expérience de vie, leur parcours va être un plus au sein de certaines élites, comme je disais tout à l'heure, même si je trouve ça très péjoratif de le dire, mais c'est la réalité, on le dise, des gens qui sont plus techno et qui sont donc éloignés du terrain. Mais il ne faut pas être dans la démagogie. Moi, je veux que ces personnes fassent pour le pays. C'est ce que je leur demande, ni plus ni moins. Et après, leur cursus ne m'intéresse pas beaucoup à l'arrivée.
Frédéric Brindel.
Alors, la question du diplôme, des études. C'est-à-dire, vous êtes chef d'entreprise et vous voulez quelqu'un pour encadrer, pour développer des projets, ben vous faites appel à quelqu'un qui a un diplôme d'ingénieur, par exemple. Si vous voulez gouverner un pays, vous faites appel à quelqu'un qui a un savoir-faire, alors qu'il peut avoir fait l'ENA, mais en tout cas qui a fait des grosses études pour connaître tous les rouages, toutes les grandes questions auxquels vous allez être amené en tant que chef d'État ou ministre même d'ailleurs, sur lesquels vous êtes amené à trancher. Maintenant, alors député, est-ce que député, ça nécessite d'avoir un grand diplôme ou pas? Mais il y a par exemple certains députés qui vont être responsables de la commission des finances, c'est un des grands enjeux. Oui. Et là, j'imagine qu'il faut avoir quand même des compétences sur la question. Maintenant, il y a aussi des députés dont le rôle est de faire remonter le message sur le terrain et pour le coup, les gens dont la formation est d'être au contact des gens sur le terrain sont totalement légitimes. En ce sens donc, il faut appeler un chat un chat. Vous êtes femme de ménage. Moi, ma grand-mère qui m'a élevée était femme de ménage.
Ma grand-mère qui m'a élevée était femme de ménage aussi.
Alors donc, on
n'y a aucun saut métier. Hein.
Voilà, on a beaucoup appris de ces gens. Maintenant, effectivement, ma grand-mère m'a expliqué plein de choses sur les valeurs humaines, mais jamais elle n'aurait pu m'expliquer comment fonctionnait la gestion d'un pays. Voilà, donc en fonction de ça, on a ces gens.
Par contre, elle vous a appris à très bien chanter.
Voilà, et...
C'était
plus mes oncles. Mais pour fermer la parenthèse et pour aller dans le sens de ce que disent finalement Sandrine et Mohamed, oui, ne pas se priver de certaines forces vives dans un cadre de compétences qui font appel à ces forces vives. Voilà.
Oui, mais Frédéric, je vais t'interrompre et être un peu en désaccord avec toi.
Vas-y.
Ça s'apprend aussi, la politique. Toutes les personnes sorties des grandes écoles ne savent pas forcément faire à l'instant T. C'est ce que disait la précédente intervenante lors du grand débat. Elle a appris, elle est retournée sur les bancs de l'école. Donc quand on a une motivation, une émulation et qu'on a envie de bien faire pour la collectivité, pour la cité, il n'y a pas de raison sous prétexte qu'on n'a pas fait de grandes études, qu'on ne puisse pas y arriver au même titre que des gens qui sont en politique depuis 40 ans.
Ça s'appelle l'ascenseur social et heureusement que ça existe et heureusement que dans les pays démocratiques, les gens peuvent progresser. Mais entendons-nous bien, une personne va arriver avec un niveau de connaissance, on va lui attribuer une tâche qui correspondra à son niveau de connaissance, elle va travailler et puisqu'elle aura travaillé et acquis d'autres savoirs, on lui donnera d'autres tâches.
Bien sûr, elle va se mettre à niveau. Et je vous prends aussi l'exemple de Bernard Tapie.
Oui.
Il s'est fait tout seul.
Oui.
C'est un self-madman, comme on dit. Et regardez jusqu'où il est arrivé, qu'on l'apprécie ou qu'on ne l'apprécie pas. Mais c'est un constat.
Alors, on va donner la parole, il reste un peu plus de 2 minutes à nos deux vraies voix du soir. Sandrine, c'est vrai que c'est quand même, on a souvent dit qu'en France, l'ascenseur social était en panne. L'arrivée de députés, on a dit les métiers, hein, chauffeur-livreur, chauffeur de taxi, ouvrier agricole, etc. Vous qui êtes agricultrice, d'ailleurs, vous êtes d'autant plus concernée. Ou alors, femme de ménage. ça veut dire que peut-être c'est une bonne chose pour avoir des députés qui poseront peut-être des propositions de loi de manière à relancer encore plus l'ascenseur social.
Oui. Alors, moi, en plus, bon, enfin, je tiens à préciser, je donne des cours enfin, dans un EHPAD, et je, de temps en temps, et alors, bon, ça, c'est la vacation, c'est un plaisir, c'est une passion. Alors, oui, effectivement, de toute façon, ça s'apprend. Donc, elle va y aller, elle va apprendre. De toute façon, c'est une battante. Déjà, premièrement, pour faire le pas, pour vouloir rentrer dans une élection et rentrer et faire, c'est vraiment énorme. Je veux dire, tout le monde ne peut pas le faire. Même, il y a des grands chefs d'entreprise qui le feront pas, parce que la politique, c'est autre chose. Des fois, souvent, on nous dit la politique. Des fois, il vaut mieux en rire qu'en vivre. On est bien d'accord.
Hein. Et puis, Sandrine, gagner une élection aussi, ce n'est pas une mince tâche.
Non, c'est sûr.
Et puis, il faut beaucoup de réseaux, et c'est de l'entre-soi, la politique, hein, clairement.
Voilà, c'est ça. C'est vrai. Et ça, c'est pas, franchement, je vraiment, à tous ceux qui se sont présentés, quoi qu'il en soit, même si je suis un peu comme Mohamed, là aussi, sur pareil, bon, je ne suis pas sur le RN, nous on en a une qui s'est présentée, elle a été élue, on ne la connaît pas, on va la connaître, on va apprendre à la connaître, je ne vais pas la juger, je ne juge pas, je ne juge plus personne, il n'y a plus à juger.
Vous me passerez l'expression, c'est le jour de la fête de la musique, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
Voilà. Mais par contre, voilà, je pense que dans les études, moi je vois, nous on a une grande entreprise, nous on a appris, c'est pas évident, enfin je veux dire, il faut quand même, et moi je vois, j'ai des jeunes qui ont passé le CAP, et ça j'ai apprécié une chronique de Guy Carnier, qui a parlé un matin et qui a fait que parler que de la philosophie, bac philo, les sujets, que bon, aujourd'hui, on peut dire que le bac n'a rien à voir par rapport à nous à l'époque quand on l'a passé, parce que j'ai 50 ans. Et alors, donc, voilà, et c'était les grands sujets. Et les CAP, moi, je vois, on a passé nos petits CAP, bac professionnel agricole, mais on n'en parle pas, voilà. Très peu. Et j'ai apprécié sa chronique parce qu'effectivement, tous ces jeunes, bah, ils font vivre quand même le pays.
C'est vrai.
Désolée.
Et les chroniques de notre ami.
Et je rejoins ce que dit Mohamed, on a besoin des fois. Et les ingénieurs ont besoin des techniciens, des hommes de terrain qui, les techniciens, ont besoin aussi. Bon, parce que moi, je suis technicienne, enfin, je suis agricultrice, mais bon, voilà, j'ai fait des études. Mais je veux dire, on est sur le terrain. On a besoin de gens comme nous sur le terrain. Voilà. Parce que sinon, voilà, et donc, et cette dame, faisons premièrement toutes les personnes qui font du ménage, on les appelle maintenant des techniciens de surface. Moi, je les aime beaucoup. Je sais, quand je vais au lycée, j'apprécie beaucoup l'équipe. Et de toute façon, il n'y a pas de sous-métier, mais par contre, il n'y a que des sous-hommes. Voilà.
Que des, oui, pas des sous-hommes. Là, le terme.
Pas des sous-hommes, voilà.
Voilà, ouais, voilà. Non, oui.
Merci.
Non, ça peut être mal interprété, on sait que c'était.
Il va avoir un orage, mais il fallait toujours que je dise mon lapsus. Mais ça, c'est moi. Ça.
Pas de souci. Mohamed, vous êtes d'accord avec ça, que comme l'a dit notre amie Sandrine, bah, on va voir ce qui se passe. Et faut laisser le temps, et que, bah, on verra, on jugera les politiques à l'usage.
Tout à fait, je crois que c'est les gens d'en bas qui font remonter les vraies difficultés du peuple. Et je vais vous donner un petit exemple, franchement, qui, je crois, qui va servir de leçon à pas mal de nos gouvernants. Dans l'automobile et dans l'industrie, vous avez les ingénieurs qui fabriquent du matériel ou un automobile, qui a une difficulté souvent. C'est les gens du terrain, les mécanos et autres qui apportent des transformations, qui les envoient à l'usine. Après étude, elle s'est transformée et s'est adaptée sur les véhicules. Voilà, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, ces gens, c'est un petit peu faire monter vraiment les difficultés des gens qui sont au bas de l'échelle. Peut-être, j'espère qu'ils sont, ceux qui sont en haut, qui nous gouvernent, vont étudier, vont essayer de trouver des solutions. Je crois que c'est ça, vraiment, ce qu'on a besoin. Et pas regarder un petit peu les Français d'en haut, dire, bon, voilà ce qui se passe en bas. Mais non, vraiment, avoir les mains dans le cambouis, et pour comprendre ce qui se passe vraiment. Quand vous voyez le prix du carburant, comment vous faites pour aller travailler?
Quand on travaille à Perpignan et qu'on habite à 30 km, c'est sûr que c'est compliqué. Ou pareil, quand on habite à Castelsarrasin et qu'on travaille à Montauban, ça coûte très cher.
Moi, je vais chercher mes rouskis à Elne. Alors, oui. Si je pars de Perpignan.
Ah, les rouskis d'Elne, c'est excellent.
Ouais, forcément.
Ça, c'est vrai. Merci beaucoup à vous, Mohamed de Perpignan, et Sandrine du Tarn-et-Garonne. Merci à vous. Ça fait du bien d'entendre les Français qui nous racontent leur vécu. C'est quand même pas tout à fait la même chose que les éditorialistes politiques. Merci à tous.
Les deux sont intéressants.
Les deux sont intéressants. Bonsoir Frédéric Brindel.
Ah, vous me dites
vous
bonsoir une deuxième fois alors.
Non, c'est la troisième, mais c'est pas grave. Parce que j'ai toujours un grand plaisir à vous saluer.
Tout va bien, messieurs.
Oui, je prends le relais. Les vraies voies de l'emploi, cher Philippe, très intéressant. Avec toutes les équipes de Jérôme Lavernie, Mission Emploi, on se repose la question de cette pénurie
dans le recrutement. Les entreprises n'arrivent pas à recruter et ça devient un problème très, très, très inquiétant. On en parle avec nos spécialistes dans un instant. Mais tout de suite...
Conseil de famille.
Avec Philippe Rossi.
Stéphane Moller.
Et oui.
Et Stéphane Moller et Philippe Rossi.